Je suis avec le coach de la team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18.
On m'a des factures des fois. Moi, j'ai jamais des factures parce que j'ai des factures, je prends 10 mètres.
Hey, monsieur, le carton, il faut donner le carton.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit en direct. L'after, l'émission qui dit tout, ce que le monde du football pense tout bas. Ce soir, Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Thibaut Leplat également, salut Thibaut.
Camarade, bonsoir.
L'événement ce soir dans l'after, les gars, c'est la finale de la Ligue des Champions. Et oui, c'est dans deux jours, mais on va en débattre dès ce soir. Daniel et Thibaut veulent en parler avec vous au 32-16. Daniel veut donner notamment son avis sur Guardiola avant le match. Et Thibaut veut poser cette question philosophique liée au coach de City. Est-ce qu'on peut encore inventer quelque chose dans le football, messieurs dames, en 2023? On va se poser la question tout à l'heure. Avant cela, l'actu mercato du jour avec des news concernant l'OM dans quelques instants, plus la suite de nos explications sur la Juve, la Super League, Allegri qui reste comme coach contre toute attente. Johan Crochet sera avec nous tout à l'heure et puis on dira également un mot des révélations du jour de SoFoot concernant les coulisses de l'arbitrage français. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. Le hashtag RMC Live est là. Direct Studio également. Voilà, puis pas de Roland Garros ce soir avec Samuel Jaoli. Puisque c'est fini, donc on le retrouvera.
Oui, demi-finale femme, la première était de qualité, j'y étais évidemment.
Très bien, tu préparais l'after, hein, bien sûr.
C'est un beau match. Oui, entre les.
Entre les jeux, quoi.
Entre les différents. Non, pas entre les différents jeux.
C'était pas dans l'after.
D'abord, il y a eu avant le match. Après, entre les deux matchs, il y a un break. Et puis après, il y avait quand même largement du temps pour préparer.
Alors. J'aimerais qu'on démarre par le mercato, les gars, avec un petit jingle mercato de bon aloi qui va tomber.
C'est combien,
j'imagine.
Tarant
mille. Elle est bien, j'ai envie de la prendre.
Attends, je vais te la marcher. Tu l'as fait à combien, là?
J'ai dit 30 000.
Ça vaut 15 000 francs, là?
Non, 30 000.
25 000?
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui, c'est 30 000, c'est un con.
Bon, info de Florent Germain qui suit l'OM au quotidien, bien sûr, qui nous dit aujourd'hui que les dirigeants de l'OM veulent prendre leur temps pour choisir le successeur d'Igor Tudor. Il va y avoir plusieurs entretiens qui vont être menés par Pablo Longoria, lui-même évidemment. Il veut parler foot, il veut parler recrues, et il veut surtout que lui et Javier Ribalta, qui est son directeur du football, son bras droit, qu'ils aient tous les deux un feeling, quoi, en fait, avec le futur élu en termes de contenu foot.
Jusque là, rien d'anormal, hein.
Tout à fait.
Ribalta, dame par les temps qui courent.
Il y a des clubs où les entraîneurs sont imposés par quelqu'un d'autre. T'es au courant, enfin par quelqu'un dans un autre pays, par exemple.
Milliers de kilomètres de là.
Donc là, ça correspond à une certaine logique. On peut s'en féliciter.
Absolument.
Voilà. Absolument. Alors, info importante quand même. Ce ne sera pas a priori Marcelinho. Alors on va pas dire à 100%, ce ne sera pas Marcelinho, mais quasi. C'est vrai que Marcelinho est ami avec Longoria. Longoria estime que c'est un excellent entraîneur, mais il ne le voit pas là à l'OM. Donc on peut l'oublier. On peut oublier également Andoni Iraola, le coach du Rayo Vallecano, un nom qui est sorti dans la presse espagnole. D'autant que Iraola, lui, devrait atterrir au Celta Vigo. Alors là, il y a deux noms qui arrivent aujourd'hui sur la table. Gallardo. Alors, Gallardo, il y a des contacts et des échanges entre l'entraîneur de l'Argentin, Gallardo, son agent et l'OM. Contact établi. Important, ça, comme information.
Ils ont le 06, quoi.
Ils ont le 06. Ils m'appellent.
Voilà. Ils sont encore sur le WhatsApp, ça va.
Et alors, le petit coup de Trafalgar du jour, c'est quand même que Longoria a beaucoup d'estime pour Christophe Galtier. Parce que Longoria dit, moi, je n'oublie pas ce qu'il a fait à Nice. Je n'oublie pas ce qu'il a fait à Lille. Voilà. Donc, il y a une, comment dirais-je,
s'il n'a pas dû regarder les matchs, hein, parce qu'à Nice, parce que c'était quand même pas, c'est pas faute de l'avoir dit ici. Ça s'est insulté tout l'été.
En aucun cas, Galtier ne correspond à la description faite par Longoria l'autre jour dans la fameuse conférence de presse que Thibaut Leplat a tellement adoré qu'il s'est repassé mille fois depuis. Il passe le replay du matin au soir à la maison tellement il a kiffé la conférence de presse de Longoria.
En fait, Florent Germain qui a consacré le podcast After Marseille du jour à cette conférence de presse.
Oui, mais elle est de grande qualité. J'encourage. Voilà. Les esprits ouverts à regarder ça.
Et Thibault Le Plain n'en a pas trop fait sur cette
saison pour avoir critiqué Tudor, pour aussi dresser les louanges, en tout cas de cette initiative.
Tu voulais dire que c'était une opération rachat pour toi ?
Non, une opération de. Tu sais, j'essaie toujours, en toute humilité, mais j'essaie toujours de penser contre moi-même. Non, donc quand je vais trop loin sur un truc, quand je sens que j'ai été dur, je vais regarder quand même voir si ça maintient.
Moi, il m'arrive d'essayer de penser contre moi-même, mais dans ce cas-là, j'ai encore raison.
Étonnant.
Il est content. Ouais, eh ben non, moi je me rends compte quand même que j'ai souvent tort. Mais là, j'avais pas tort, je me suis rendu compte que j'avais raison, mais c'est peut-être Longoria qui avait tort. Mais en l'occurrence, alors, il donnait des arguments.
Je veux pas tresser des louanges.
Enfin, toujours est-il que Galtier ne correspond pas au profil décrit pour être sérieux dans le sujet.
Je veux pas tresser des louanges trop souvent à Florent Germain, mais enfin, faut reconnaître que sur le dossier du coach de l'OM, ces derniers temps, il s'est rarement trompé.
Ah oui, non, il est.
Mais pourquoi, qui en doutait ?
Mais ça empêche pas.
Certains vont dire qu'est-ce qu'il raconte l'autre ? Gallardo, Galtier, machin.
Ça dément pas du tout ce que dit Flo. On dit simplement qu'il peut regarder. Du respect pour Galtier,
c'est voilà, il peut très bien. L'autre a très bien pu lui dire de façon très bienveillante et gentille, oui, Galtier, on aime bien. Ça ne veut pas dire que Galtier va venir. Gallardo, je pense que ce serait d'un autre niveau.
Oui.
Nous Gallardo, le tenons en haute estime, puisqu'il a fait l'objet d'un article magnifique dans la dernière revue de l'After.
Voilà,
Gallardo est un entraîneur du futur. Pour l'OM, ce serait extraordinaire de l'avoir.
Ce serait le meilleur choix et c'est l'un des cadors que tout le monde se dispute.
Ah là, si tu arrives à décrocher, à avoir ce coach-là, pour l'OM, c'est bingo. Quoi.
Ouais. Moi, j'ai une proposition à faire à Longoria, qui est un homme malicieux, qui connaît bien l'histoire de l'OM. Il pourrait recevoir Gallardo et Galtier afin que les deux se croisent dans le couloir. On pourrait refaire une scène mythique.
En mode fait entrer accusé.
C'est vrai que avoir ces deux-là dans une même liste, c'est assez cocasse pour l'OM, c'est vrai. Voilà.
Rappelons qu'il y a quelques temps, il y a eu une baston entre ces deux-là dans un couloir du Vélodrome, enfin dans le couloir qui mène au terrain.
Enfin une baston, on appelle ça un guet-apens.
Guet-apens sur Gallardo.
Plus un guet-apens quand tu prends un mec à deux contre un mur, c'est pas vraiment une baston.
Ou alors ?
Et qu'il y a une claque qui part.
Et si la malice allait jusqu'à ce qu'on propose à Galtier d'être l'adjoint de Gallardo ? Oui, non, ça passera pas.
Moi, je pense que Galtier va se reposer.
Et Oleg Ziak, avec Oleg Ziak dans le staff.
Je pense que les deux ont vraiment besoin de repos.
Ils ont vraiment besoin
un peu de plage et un peu, genre, 6 mois de plage pour se remettre des émotions parisiennes. Vraiment.
Bon, voilà ces infos OM du jour. C'est quand même très intéressant parce que c'est un des gros feuilletons de l'été et c'est très appréciable de voir que l'OM et que Longoria jouent pas la transparence complète, mais enfin en tous les cas communiquent sur ce qu'ils font.
Les deux plus gros clubs français sont en attente d'un coach.
Et de
nouveaux joueurs, puisque l'OM va également, j'imagine, puisque chaque année c'est un peu ça, recruter et renouveler un petit peu son effectif. Pour correspondre peut-être au choix du nouvel entraîneur.
Il paraît de quoi 40% de renouvellement par an, ce qu'il disait dans la fameuse.
Fabuleuse interview que tu te repasses 10 fois par jour.
Je me repasse, j'apprends par cœur, j'essaie d'imiter l'accent, mais pour l'instant j'ai du mal. Mais il parlait de 40% d'effectifs.
Allez, Morgane, elle va nous dire ce qu'il pense de tout ça. Salut Morgane.
Bonsoir tout le monde.
Supporter de l'OM. Toi, t'as une théorie là sur le fait que le nom de Galtier soit sorti ?
Ouais, c'est un petit peu des bruits sur Marseille et une théorie aussi. C'est que, effectivement, de ce qu'on sait, il fait partie d'une shortlist. Après, combien il y a de noms exactement, j'en sais pas, mais il en fait bien partie. Mais je pense que la fuite est volontaire. Pour que tester un petit peu la réaction des supporters, si c'était faisable ou pas. Parce que dans le fond, s'il n'avait pas entraîné Paris, c'était une très bonne idée, mais je pense que le timing est très mauvais, parce que la réaction des supporters, on la voit, elle se comprend aussi. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est son comportement quand il est venu en championnat, surtout. Il a failli en venir aux mains avec certains supporters en jambouin. Il a eu des gestes pas super envers le stade. Donc, en plus de ça, ça a un peu remué le couteau dans la plaie. Je pense que Longoria se tire une balle dans le pied et je pense que tu installes une ambiance, parce que si ça a sifflé Tudor pour le premier match, je ne vous raconte pas ce qui va se prendre Galtier. Donc je pense que c'est une fausse bonne idée. Elle aurait été bonne il y a un an, mais aujourd'hui, si le timing est trop mauvais, peut-être dans 3-4 ans, ça se sera tassé, ça sera oublié. Mais au jour d'aujourd'hui, je veux dire, tu mets une ambiance.
Oui, c'est vrai que j'avais oublié cette altercation qui était assez violente.
L'OM qui doit prendre un entraîneur, il y en a d'autres. S'il n'y avait que lui, je ne dis pas, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres possibilités. Que l'OM aille prendre l'homme qui est en situation d'échec au Paris Saint-Germain et qui s'est pris un coup de chausson au PSG, je trouve que c'est... Enfin, moi, je suis président de l'OM, c'est presque un aveu d'impuissance, un aveu d'échec d'aller chercher le mec qui s'est planté au PSG. Il avait rien à faire au PSG, on le sait tous. Parce qu'il est marseillais et parce qu'il n'avait pas les épaules. Mais parce qu'il n'a pas les épaules au PSG, le gars, il a les épaules pour l'OM. Moi, si je suis supporter de l'OM, je le prends mal. C'est admettre que je suis un club de seconde zone en allant chercher l'entraîneur qui s'est fait piétiner au PSG.
Bien sûr, après, pour Galtier, il y a un intérêt à aussi rester dans le circuit, que son nom circule. Et que, voilà, après, il a quand même d'autres priorités, se reposer, s'occuper de ses affaires judiciaires, mettre au clair ses histoires, peut-être éventuellement laver son honneur s'il considère qu'il a été entaché, et ensuite revenir. Je pense que c'est... Mon sentiment là-dessus, mais si je le connaissais, c'est ce que je lui dirais.
Bon, voilà en tout cas les infos du soir qu'on pouvait vous donner là-dessus. On suit le dossier de très près, évidemment, grâce à Florent. Le pauvre Galtier, il n'a pas été accepté à Paris.
Ce qui pourrait bloquer pour Gallardo, c'est pas un entraîneur qui...
Qu'il n'ait pas d'autres pistes.
C'est ce que j'allais dire. Il n'a pas visiblement beaucoup d'autres pistes. Il a depuis longtemps envie d'entraîner en Europe. On l'attend en Europe depuis très longtemps. Il a fait ses preuves en Argentine. Je pense que le moment est venu pour lui de prendre une équipe européenne. L'OM l'appelle. Il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas, en fait.
Morgane, merci beaucoup.
Gilbert, si je peux juste me permettre juste une dernière chose. Je pense honnêtement que pour n'importe quel entraîneur qui va venir, il va y avoir une pression de dingue. Parce que je me dis que catastrophe.
Bah, comme d'habitude, non, il n'y a pas tout le temps la pression à l'OM.
Ouais, mais là, ça va être accentué, Daniel, dans le sens où fin août peut déjà y avoir la crise si tu passes pas le tour préliminaire. Et il va avoir sa préparation de juillet. Il va avoir un mois en août pour se roder avec son effectif et le nouvel entraîneur, le nouveau staff, etc. Et je pense que dans tous les cas, pour n'importe quel entraîneur, ça va pas être un cadeau parce que, imaginons que tu passes pas les tours préliminaires, fin août, ça va déjà être très compliqué pour lui, je pense.
Quand t'as entraîné River Plate, bon, au niveau de la pression, je pense que tu sais la gérer. La difficulté, c'est peut-être la spécificité de la compétition européenne si tôt dans la saison pour lui, qui a jamais entraîné en Europe. Il peut y avoir un petit temps d'adaptation, surtout que les premiers matchs comme ça, les matchs de barrage, sont des matchs où tu rencontres des équipes qui sont surmotivées et toi t'es encore en fin de préparation, donc il faut quand même être un peu rodé pour arriver à gérer ces matchs-là émotionnellement. Tu pars tout de suite, il faudrait tout de suite être à 110% et toi t'es qu'à 70% à ce moment-là.
Dans un instant, le reste de la Cubercato, on va parler de Lebris. Et puis j'ai quelques déclarations des uns et des autres à vous faire, à vous partager concernant différents sujets, concernant Galtier, concernant le stade Vélodrome. Voilà. L'actu du jour, quoi.
Quoi, encore à dire sur lui, ça va, non?
Bah, parce que Zoumana Camara a fait une petite sortie quand même.
Ah oui, c'est vrai, oui, il a mis une sorte de tac par derrière, là.
On en parle dans quelques instants. Et ensuite, messieurs, dames, ce sera la Ligue des Champions au programme. À tout de suite.
Je suis avec le coach de la Team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché, là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Ah putain, mais on n'en prend pas.
22h17, Daniel. Halte au gros mot. Même en off. Voilà. Les gars, on continue sur nos infos mercato, mais juste avant, deux petites déclats. Il y en a une de Messi qui nous a échappé hier dans la fameuse interview Mundo Deportivo. On l'a interrogé sur l'ambiance de la Ligue 1, les stades en France. Et là, Messi, qui a quand même été assez dur sur le PSG, qu'est-ce qui sort? Il dit, impressionnant, le stade Vélodrome, quelle ambiance. Lui, tout ce qui, soit il a rien compris, soit c'était vraiment là.
Bah, il est parti, quoi. Il est plus là, quoi. Bon. Que...
Il dit qu'il a adoré jouer au Vélodrome, qu'il n'avait jamais vu une ambiance comme ça.
Bah, c'est normal, c'est un de ses meilleurs matchs cette année.
Oui, c'est vrai, en plus.
C'est un de ses meilleurs matchs cette année au Vélodrome.
Je l'ai dit, il a raison sur l'ambiance du Vélodrome, qui est la meilleure de France.
Ouais, il s'est régalé là-bas, et il les a tordus.
Oh, il y a eu longtemps.
C'est un bon souvenir pour lui. C'est le seul match où je me souviens d'avoir vu Messi très performant.
Il y a une époque où le parc et le Vélodrome, c'était kiff-kiff au niveau de l'ambiance.
Il y a eu des années 90.
Il y a une époque où il y a longtemps.
Ouais. Voilà. C'était il y a longtemps.
Et puis, autre déclat. Donc, c'était tout à l'heure chez nos confrères de France Bleu dans l'émission PSG. Zoumana Camara.
Dans l'émission de Pia.
De Pia, exactement. Qu'on salue.
À chaque fois que je peux la saluer, je la salue.
Zoumana Camara a été assez dur avec Galtier parce qu'il a dit, bah voilà, au début de la saison, il m'a dit, ouais, viens, mon bureau est ouvert et tout. Puis en fait, au final, ben, pendant toute l'année, zéro contact.
Ouais, il a surtout fait il a surtout marqué une différence avec ses prédécesseurs qui ouvraient la porte et discutaient avec lui, alors que Galtier, il l'a même pas calculé et il n'a pas du tout ouvert la porte du vestiaire.
Oui, bah, il y a eu la même. Les
quand
mêmes
on sait que Zoumana Camara est un peu un historique du PSG, il était là déjà dans les années 2000, il a connu les années noires. Sur le terrain, après sur le banc, il s'est occupé des jeunes. Enfin, c'est quand même une figure importante du club. Que Galtier lui ferme la porte et ne lui parle jamais, je trouve que ça en dit long aussi sur la personnalité de Christophe Galtier.
Voilà, et puis Camara lui semblait lui reprocher aussi la gestion des jeunes que lui-même avait aussi dans son groupe pour d'autres compétitions. Voilà, là il m'a dit par exemple il va jouer une demi-heure, finalement le mec jouait tout le match. Enfin bon, il n'était pas content sur certaines sur la gestion de certains.
On a bien compris qu'il n'est pas mécontent de le voir se partir.
Bon, ouais, voilà, le costume était trop grand pour lui.
On en arrive maintenant au dossier Thibaut Leplat.
Pas la doudoune, il portait bien la doudoune d'ailleurs. Il a pris la doudoune et il partit avec.
Ouais, il est parti avec la doudoune. Hein.
On en arrive donc au dossier Thibaut Leplat. Ah. Thibaut Leplat, niçois de cœur et d'adoption, va donc accueillir son coach préféré. Puisqu'RMC Sport vous a révélé encore, aujourd'hui que Régis Lebris et le gym sont tombés d'accord.
Voilà, il reste à négocier encore avec le club, avec FC Lorient.
Voilà, négociation maintenant à faire entre Nice et Lorient. Alors, il faut rappeler quand même, c'est important ça, que Lebris a re-signé, enfin, signé une prolongation il y a quelques mois.
Ouais.
Et moi, je suis assez étonné parce que je ne sais pas si vous avez vu ça. Bon, Lebris à Nice, ça fait un moment qu'on en parle, hein, Thibaut.
Faisons la vanne, Lebris de Nice, tout ça. Disons-le déjà. Voilà.
Non, mais là où je veux en arriver, pardon. Après la blague, on s'en fout. C'est que je suis très étonné.
En plus, elle est pas bonne, Thibaut. Je suis désolé.
Mais ça fait quand même plusieurs fois qu'on l'a fait déjà.
Oui, mais justement, déjà, ça fait. On l'a beaucoup trop fait déjà. Elle est nulle, mais en plus.
Non, mais le truc étonnant aujourd'hui,
j'ai même pas vu le film.
C'est les réactions quand même très violentes des supporters de Lorient, qui cet hiver, quand ils se sont fait piller de leurs meilleurs joueurs, ont à peu près rien dit. On les a peu entendus. Et là, Lebris, il passe d'ores et déjà pour un traître. La trahison, il a reçu 4 mois, il se barre. Moi, je suis très étonné.
Tous, hein.
Mais ça, c'est un peu normal. Le lien, Gisolfi avait, comment dire, lancé Francaise. Francaise est très lié à Régis Lebris. Brice, ils sont. il connaît bien son agent également. Il y a quelque chose d'assez naturel à ce que Régis Lebris, si Gisolfi estime que c'est un entraîneur qui
ils se
connaissent bien, qui peut monter en gamme et passer d'un club comme Lorient à Nice avec un peu plus d'ambition, il est normal qu'ils se tournent vers lui. L'accord n'est pas complètement trouvé. Hein. À Nice, on dit que c'est pas encore trouvé et que le club va également rencontrer encore d'autres entraîneurs, même si la piste numéro une, c'est celle menant au coach de Lorient. Mais il y a possibilité pour le club encore de rencontrer un ou deux coachs.
Blague à part, je trouve que ce serait une excellente idée, de mon point de vue. Maintenant,
Excellente idée, attention. Thibaut nous en parle depuis très très longtemps. Cette année, on a vu de très belles choses. Et même sur la fin, quand on lui a enlevé ses meilleurs joueurs, on lui a quand même enlevé justement Nice, Mofi. Il a continué à toujours présenter une équipe assez ambitieuse. Maintenant, c'est jamais simple. Des entraîneurs qui avaient comme ça cette volonté d'être protagoniste, de produire un bon football, et qui ont changé de club pour aller dans des clubs où il y a plus de pression, où t'es plus regardé, et on se dit, tiens, maintenant, toi, on va voir de quoi t'es capable. Il y en a qui se sont plantés. Il faut avoir un autre caractère aussi.
La problématique,
il va devoir changer, même au niveau du caractère. Il va falloir qu'il s'affirme un peu, quand même.
La problématique de Lebris, dans cette affaire-là, c'était de savoir où il mettait les pieds. Et qu'il y avait, s'il y a eu une, d'abord la première prolongation qui a été signée à l'hiver, je crois, c'est aussi qu'il pensait avoir des garanties sur de stabilité, notamment de l'effectif, et que le différent avec la direction est d'abord un différent sportif. ce qui s'est passé pendant l'hiver a laissé des traces très, très profondes. C'est-à-dire que ça a été très, même lui en a assez peu parlé, mais en privé, c'est quelque chose qui a laissé des traces. Vraiment, savoir recommencer fin janvier, remettre une équipe, on t'enlève ton meilleur joueur et ton buteur, tu dois tout recommencer, et essayer d'avancer dans une compétition que t'es en train de jouer. Sportivement, pour lui, c'était très compliqué. Il a réussi à le faire. Et à ce moment-là, une porte était possible. Il considérait qu'un projet sur le long terme était possible.
De toute façon.
Et les réunions de fin de saison se sont mal passées.
Non mais les supporters de Lorient peuvent absolument pas lui en vouloir. Pourquoi ? Parce que le destin de ceux qui à Lorient réussissent, que ce soit joueurs ou entraîneurs, c'est de partir. Le club est constitué comme ça. Je suis désolé pour les supporters de Lorient de le dire de cette façon, mais la constitution même de Lorient. Par Loïc Ferry, c'est de faire du deal, c'est immédiatement
là,
de faire du trading
problème d'argent,
et de profiter immédiatement des opportunités. Donc on va pas en vouloir à un coach qui a quand même le droit dans sa vie d'être ambitieux et d'aller dans un club où il va avoir un peu plus de moyens et plus l'occasion d'enrichir sa carrière, de dire bah attendez les gars, vous allez pas me retenir, moi si je suis ici à tous les coups, ça va être la même. On va faire un bon début de saison. Mon meilleur joueur à Noël, il va partir parce que Loïc Ferry va le vendre.
Le fait a été vendu déjà. Là.
Voilà. Et tous ceux. Et rappelle-toi quand même, Gourcuff.
Oui, Gourcuff,
les belles années de Lorient. D'ailleurs, il l'avait dit quand on l'avait invité. Il dit de toute façon, à chaque fois qu'on faisait un truc bien, mes meilleurs joueurs, il attendait pas la fin de la saison. Ferry, dès Noël, il les vendait.
Le problème,
et quand il les vendait l'été, des fois, il les vendait le 31 août. Et notamment quand il faisait son business avec l'OM à l'époque. Donc bon, Ferry, on sait très bien à quoi lui sert le club. C'est à faire son petit business et son trading. Donc je suis désolé pour les supporters de Lorient. Ils ne peuvent absolument pas vouloir à Lebris d'avoir de l'ambition et d'aller.
Pour un entraîneur, c'est très compliqué. C'est une vraie, que la double peine. T'essayes de faire performer ton club. À partir du moment où il performe, à partir du moment où t'arrives à avoir une ossature, avoir des joueurs qui se révèlent, dès cet instant-là, ils partent. Donc c'est une sorte de pénalité à la performance. Ce qui rend la chose très compliquée quand t'es ambitieux, parce que Régis Lebris est un homme très ambitieux en matière de football, ambitieux non seulement pour sa carrière, mais ambitieux dans ce qu'il veut produire comme jeu, comme culture de jeu. Quand tu as t'as pas de garantie sportive et que lui il a des propositions qui lui arrivent, forcément la question se pose. Il s'est avéré que la porte est ouverte à Nice aussi, et que l'organigramme niçois s'est précisé. Le duo Boquet-Ghisolfi a pris les manettes du club, donc forcément, vu qu'ils se connaissent bien, donc tout ça fait que c'est assez naturel finalement que la chose arrive. C'est pas du tout récent, ça fait longtemps qu'ils s'intéressent à lui et ça fait longtemps qu'ils le connaissent. Et il est connu, je veux dire, à part du grand public, il n'était pas tellement connu, mais dans le milieu du football, il était déjà connu, Régis Lebris. Donc c'est pas vraiment une surprise qui arrive là. Simplement, effectivement, ce qui est compliqué, c'est d'avoir un désaccord comme ça entre une direction et un coach en devenir. Et tu le dis très bien, le drame, la tragédie de Lorient, c'est que c'est un club qui est fait pour partir, mais c'est un peu le destin.
Alors,
des villes portuaires.
Allons à Lorient. Oui, pas mal ça.
La ville de cinq ports.
Adrien est supporter de Lorient. Salut Adrien.
Bonsoir messieurs.
Salut Adrien.
Adrien, bienvenue dans l'after. Toi, t'en veux à Ferry dans cette affaire ?
Bah, complètement. Je suis d'accord avec ce que disaient Daniel et Thibault Leplat, c'est que Régis Lebris, ça fait un long moment qu'il est arrivé au club. Il a mis en place ses idées jusqu'à arriver à l'équipe première. Et Loïc Ferry, bah, il continue en fait de répéter les erreurs qu'il a fait. Gourcuff est parti par sa faute. Il a pris Mickaël Landreau après pour espérer retrouver.
Mais tu sais, je suis désolé de te couper, mais en fait, c'est pas des erreurs, parce que quand tu commets une erreur, c'est souvent que tu fais pas exprès ou que tu sais pas trop ce que t'as fait. Là, pour lui, c'est pas du tout une erreur. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est totalement assumé. C'est une façon de gérer le club.
Le truc, c'est qu'il l'avait prolongé.
J'appelle
ensuite,
pas ça une erreur, moi, en fait.
Il le prolonge et ensuite la politique sportive. Il y a un désaccord sur la politique sportive. Il l'a pas prolongé. Je veux dire, c'est là que se noue un peu le problème avec les supporters l'orienter, je crois.
Ben, il a besoin des supporters. C'est-à-dire que son modèle repose sur l'engouement local. Et moi, cette année, je suis allé trois fois au stade à Lorient. En fait, j'habite à Brest. Je suis pas supporter à Brestois. Je suis supporter à Lorient.
Ah.
Et on a retrouvé en fait au Moustoir les grandes soirées, les grands matchs de Christian Gourcuff, avec de l'ambiance dans le stade, une équipe qui arrive à porter le public. Et Ferry, il a besoin de ça, donc on le voyait, grand sourire. Là, il allait voir les supporters, mais très vite, si Lebris part, là, il va être encore il va se retrouver en fait avec les supporters ados. Et là, le pire, c'est qu'il y a un investisseur américain qui est arrivé. Ça passe déjà très mal auprès des supporters. Il y a, comme disait Daniel, c'est un club, je pense, qui est amené à disparaître, malheureusement, parce qu'il y a quelqu'un à la tête qui pense plus à l'argent qu'au territoire, qu'aux supporters et qu'aux entreprises qui l'ont porté jusqu'ici.
Bon, oui, en gros, Ferry qui est un financier, il veut faire du blé, quoi, pour résumer la situation.
Pareil, c'est pas vraiment on va pas découvrir ça ce soir.
Non, mais après, il y a eu la dette Covid, il y a eu l'arrêt de la Ligue 1 qui a coûté très cher au club, mais qui a été remboursé grâce à ces deux ventes-là. Et effectivement, mais je répète, c'est d'abord un désaccord sportif. C'est une fin de saison qui se passe mal, voilà, et des opportunités qui se présentent.
Merci, Adrien.
Si je peux juste ajouter,
bien sûr.
Daniel qui tient Vincent Labrune dans son cœur, le monsieur Ferry et Labrune sont très très amis.
Ah bon, mais comment c'est possible?
Oui, on sait, Adrien.
Évidemment, Adrien.
On connaît cette connexion.
Ouais, tu sais, c'est pas la seule connexion de l'Orléanais. La plupart des présidents de Ligue 1 lui mangent dans la main. Après. Parmi ces présidents, il y a ceux avec qui il mange, il y a les laquais qui sont au bout de la table, là, comme Caillot. Ferry, il mange en face de lui parce que c'est le business international, voilà. Et au-dessus, en revanche, Vincent Labrune mange dans la main de Nasser Al Khelaifi. Voilà.
Daniel, t'as fait la géopolitique.
C'est géopolitique des relations.
Du bureau de la Ligue.
De nos dirigeants. Tout en haut, t'as Nasser Al Khelaifi, après t'as Vincent Labrune et ses amis et les laquais.
Dans un instant, d'autres infos mercato concernant nos clubs français, notamment le PSG dans quelques secondes. Et puis d'ici 23h, on va également revenir sur le dossier de SoFoot qui est paru aujourd'hui, qui nous raconte les dessous de la gestion de l'arbitrage français. C'est à la fois pathétique et révélateur du fonctionnement à la Fédération française de foot.
Oui. La commission fédérale a élu le meilleur arbitre de la saison. C'est qui?
Monsieur Le Texier, j'ai vu.
C'est totalement dingue.
Oui, non, effectivement.
Le meilleur, on sait tout ce qu'il sait, c'est Benoît Millot.
Exactement. Hein. Bon, on ne comprend pas.
Donc c'est un Le Texier, deux Turpin. Mm-hmm. Donc Turpin, quoi qu'il fasse, il est sans arrêt dans les meilleurs. Lui. Mm. Alors qu'il a régressé Turpin. Et trois Millot. Alors que pour nous, c'est Millot en un. Et alors je crois qu'il y a Frappard en quatre.
Il est sur le podium des trois.
Ah, Frappard, là, pas trop quand même.
On va reparler d'arbitrage tout à l'heure. L'after revient tout de suite avec vous au 32-16 et après 23h, tout sur la finale de la Ligue des Champions, Guardiola, la question de Thibaut. Est-ce qu'on peut encore inventer des trucs dans le foot en 2023? Vous avez une idée? Appelez-nous. 32-16, ce sera tout à l'heure.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h33, l'after est là, messieurs, dames. Et si vous écoutez l'after avec Thibault Lopla et Daniel Riolo, vous pouvez vous féliciter parce que vous faites partie d'une communauté extraordinaire de podcasteurs, notamment si vous voulez vous podcaster, puisque l'after est à nouveau premier podcast de France. Youpi, nous sommes les premiers. Voilà.
Quelle belle nouvelle. Il y a un petit moment qu'on avait perdu cette
première
place.
On était deuxième ces derniers temps.
On était deux, ouais.
Derrière nos amis des grosses têtes.
Absolument.
Qu'on salue d'ailleurs.
Une émission historique et mythique.
Et qui passe à la télé.
Derrière, il n'y avait pas de honte à être derrière.
Ouais. Voilà. Et là, on est devant.
Mais c'est mieux quand on est devant.
Voilà. Donc, vous écoutez l'After, premier podcast de France. Et on vous remercie tous, évidemment. J'en reviens à mon mercato parisien. Pourquoi? Parce que Leipzig a décidé de renvoyer Abdou Diallo à Paris. Leipzig n'a pas levé l'option d'achat du prêt d'Abdou Diallo, qui va donc retourner au PSG cet été. Il lui reste un an de contrat au défenseur sénégalais, qui n'est pas le gars qui avait le plus démérité à Paris, par ailleurs.
C'est pas le plus mauvais des défenseurs que le PSG a eu sur les dernières années, à qui on a tardé à donner un peu de confiance, mais quand on lui en a donné, honnêtement, je ne me pas souvenir de l'avoir vu passer au travers de ses matchs. Même dans les meilleures années du PSG, à savoir 2020-2021, il était plutôt pas mal. Donc moi, je très honnêtement, quand on voit la défense cette année, quand on a vu les prestations de Marquinhos,
ça aurait fait du bien.
Dembélé a tout le temps été blessé, Ramos n'est plus là et de toute façon il était cuit. Honnêtement, le voir revenir, je crois pas que ce soit une mauvaise nouvelle, moi. Vraiment.
Exactement, je suis d'accord. Et puis Neymar. Neymar, vraisemblablement, c'est le journal Sport en Catalogne, très proche du Barça, qui le dit. Neymar s'est carrément offert au Barça.
Ah, oui.
Il dit je veux revenir, je suis prêt à baisser mon salaire et tout. Sauf que Xavi, dans la journée, a dit Neymar, c'est mon ami, mais non.
Ah, une mauvaise nouvelle pour le PSG, ça.
Voilà.
Mais en fait, je crois que Neymar, aujourd'hui, le seul club où le PSG pourra le refourguer, c'est un club dirigé par un Américain. Il faut que ce soit un propriétaire qui connaisse pas trop le foot, qui est du blé à craquer parce que le marketing va l'intéresser, parce que la mise en avant du produit, vente de maillots, ce genre de choses. Oui, on peut.
C'est à peu près le seul qui.
Voilà, on tourne un peu dans tous les sens, mais en gros, il faudrait que ce soit Chelsea.
Voilà.
Dans le club où ils peuvent, je sais pas, ils ont combien ils ont de clubs, combien ils ont de joueurs maintenant, 150, 200. S'ils peuvent mettre Neymar à l'intérieur,
ça fait une bonne fête, quoi. Ils peuvent faire une bonne fête.
Rappelons qu'à Chelsea,
en plus, Londres,
il y a tellement de joueurs
au niveau des soirées, au niveau poker, c'est pas mal fréquenté. Londres, il peut trouver des bonnes parties de cash game à haute limite, c'est ce qu'il aime. Donc franchement, Londres, ça lui correspond pas mal.
Dans l'actu du jour, là, je sors du mercato hein, pour le reste. Un petit mot d'équipe de France. Vous savez qu'il y a des matchs là dans les jours
qui
viennent.
Sur le PSG, c'est tout ce que tu as à dire parce que moi, j'aimerais quand même.
Un truc en plus.
Si on pouvait s'arrêter deux secondes parce qu'en ce moment, il faut le dire quand même. Toutes les rédactions sont et nous, je nous mets dedans, un peu en ébullition, effectivement, un peu comme l'année dernière d'ailleurs, autour évidemment du nom du coach et des recrues. Sur les recrues, c'est allé assez vite parce que là maintenant, on est a priori, il y a 8 nouveaux joueurs qui devraient arriver et on est à peu près à la moitié puisque donc aidez-moi, mais Asensio et Skriniar et Ugarte, c'est fait. On est plutôt pas mal avancé. Enfin, il y a discussion avec Marcus Thuram. Gundogan, en fin de contrat, je pense que le PSG va vite se mettre dessus. Après, il manquera un ou deux gros coups. Bernardo Silva, on sait très bien que Campos a les liens pour discuter directement avec lui.
Donc, Kefren Thuram aussi. Qui peut...
On voit à peu près la tournure que peut prendre le recrutement et on sait que l'idée de Luis Campos, c'est vraiment d'insister sur l'équipe et le collectif. Pourquoi je disais que les rédactions sont un peu en ébullition et que c'est un peu compliqué, comme ça l'a été l'année dernière d'ailleurs autour du coach. On l'a beaucoup expliqué, mais il faut vraiment le redire. C'est particulier, je me souviens très bien Jean-Baptiste Guégan qui était là hier et qui expliquait d'un point de vue politique les différences qu'il peut y avoir entre l'Arabie Saoudite et le Qatar et la façon de fonctionner. C'est que aujourd'hui, on a donc un homme qui est censé gérer tout ça, c'est Luis Campos. Aujourd'hui, Campos, il a... Comment dire ? Il a tout préparé. Pour schématiser, on va dire, il a son petit cahier. Il a vu ce qui allait pas. Je crois que c'est quelqu'un qui connaît le foot, évidemment, et même très bien. On peut pas lui enlever ça, c'est impossible. Je crois qu'il est pas plus bête qu'un autre. Il a vu que les défaillances étaient collectives. Il a vu que Messi, Neymar, ça marchait pas. Il sait très bien que certains doivent se remettre au travail et qu'il faut un petit peu reconstruire. Et que donc, il faut un coach qui aura les mains libres pour faire les bons choix, ce que n'a pas su faire Galtier. Même si c'était son choix à lui, déjà de ça, il est redevable déjà de cette erreur. Bon, il veut avancer. Il a préparé son petit cahier, il est allé à Doha, il a présenté toute sa petite liste et d'entraîneurs et de joueurs. Aujourd'hui, clairement, si le coach qui arrive n'est pas dans son dernier trio de tête dont j'ai parlé l'autre soir, à savoir Mota, Nagelsmann plus 1, Nagelsmann sans Henry, Campos n'a plus rien à faire au club. Lui dit évidemment que je serai là, mais le fonctionnement qatari jette toujours un trouble. Parce que beaucoup de gens dans les rédactions, comme l'année dernière avec Zidane notamment, reçoivent des informations mais qui émanent du centre du pouvoir qatari.
C'est les sociétés de cours, tu disais bien Jean-Baptiste tout à l'heure.
Les gens sont proches vraiment du pouvoir. Ils ont des informations.
Les sociétés de cours sont les sociétés de rumeurs, de sociétés de comme ça, d'écrans de fumée. C'est toujours très difficile de savoir où se trouve le centre du pouvoir.
Et ce sont des gens qui veulent tellement être proches du pouvoir, qui veulent avoir les informations, les donner et dire j'ai participé à la décision. Et il faut qu'on fasse nous très attention parce qu'on peut être piégé, on parle, parce que ce sont des gens souvent très importants et très proches du pouvoir, et ça donne une sorte de confusion généralisée. Et même pour Luis Campos, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Même lui dit effectivement, je sais que dans mon dos, ça parle, et qu'on veut imposer des entraîneurs qui ne sont pas dans ma liste. Et si jamais c'est un entraîneur qui n'est pas dans les trois que j'ai cités, honnêtement, ça veut dire que Campos ne vaut rien dans ce club. Et auquel cas, il doit partir.
En tout cas, qu'il n'est pas considéré comme étant la tête, la tête pensante.
Hein.
Si, si, non, si, mais c'est pour, si c'est pour gérer les affaires courantes, quoi.
Si c'est pas un gars de ceux que j'ai dit que je sais, ça veut dire qu'il ne vaut rien, il peut partir.
D'accord, mais
il peut partir.
Ce que je veux dire, c'est que dans la conception que peuvent se faire les Qataris, qu'on peut essayer d'imaginer, c'est de dire que Luis Campos, bon, et c'est celui qui va gérer les affaires courantes du sportif et que les nominations prestigieuses appartiennent, à la source du pouvoir.
Ça voudra dire qu'il a rien à faire là. Faudra qu'il s'en aille parce que ça veut dire qu'on ne lui a pas laissé.
La même chose, c'est-à-dire que ça fonctionne à l'envers et que c'est les gens les plus éloignés du terrain qui décident de ce qui se passe
et
sur le terrain.
Et on lui aura pas laissé décider de qui doit diriger l'équipe, auquel cas il a plus rien à faire.
Après, il a quand même une pierre dans la chaussure, le pauvre, c'est quand même c'est Galtier.
Oui, oui, bien sûr.
C'est que Galtier, ça l'a pas aidé politiquement. Moi, j'étais très surpris quand il a nommé Galtier. Parce que pour ce que tu dis, parce
à tel
que
point que jusqu'au bout, je n'y ai jamais cru. J'ai jamais cru qu'il ferait admettre cette idée au Qatar.
Il a pris un énorme risque en fait en proposant tout de suite Galtier et que le Qatar l'ait suivi. Il a été quand même pied et poing lié au destin de Christophe Galtier. D'ailleurs, il voulait le prolonger, lui.
Et c'est pour ça qu'il va devoir se racheter.
Voilà.
Réussir son mercato, réussir les départs et trouver le bon coach.
C'est ça, les sociétés de cours. Tu vas essayer de retrouver les faveurs du roi.
Absolument.
Pour retrouver les faveurs du roi.
On lui laisse une deuxième chance.
Tu as déplu, il faut à nouveau plaire.
Exactement, Thibaut. Et je veux bien, sans problème, lui laisser une deuxième chance parce que ce qu'il avait fait avant mérite qu'on lui laisse une deuxième chance parce qu'il avait construit des belles équipes par ailleurs. Il n'a pas tout le temps tout fait de façon formidable. Mais honnêtement, quel directeur sportif aujourd'hui dans le foot ne se trompe jamais ou prend. Alors après, il y a toujours ce truc un peu de.
Ah, c'est pas de la magie, hein. C'est normal.
Non, mais après, il y a toujours ce truc de. Il travaille avec les amis. On l'a souvent dit nous aussi. On sait très bien sa relation avec Mendes. Bon, après, il faut savoir que ce milieu des agents, tu trouveras pas un agent ou un directeur sportif qui dit du bien d'un autre. Les mecs ne font que se tailler.
Entre agents, ils sont en concurrence.
Entre directeurs sportifs, ils sont tous amis.
Parce qu'ils sont en concurrence. Et parfois, il y a comme une forme de logique à dire, bah écoute, oui, je vais bosser avec un agent que je connais parce que on va dealer ensemble.
Faut pas oublier que les clubs
pour Longoria il y a quelques mois, tant que ça marche.
Les clubs de foot.
S'il a envie de bosser avec ses amis italiens et ses agents italiens, tant que ça marche.
Les PME, les clubs de foot.
On lui reprochera rien.
Donc ça fonctionne comme des PME. Il y a des amitiés. L'amitié, c'est pas en soi. Bon, je crois pas que ce soit le problème. L'amitié, c'est normal que dans ton travail, t'as plus tendance à travailler avec des gens que tu connais parce que tu leur fais confiance, etc. À la limite.
Mais... Sauf que quand ça marche pas, on va te le reprocher.
Voilà.
Dans un instant, le reste de l'actu du jour, avant de parler de la Ligue des Champions, affaire d'arbitrage également dans le foot, une nouvelle révélée par SoFoot. Voilà le programme de l'affaire.
Mais il est vraiment fort le Texier
à venir.
Il mérite d'être numéro 1 le Texier.
Bah écoute,
j'ai pas souvenir d'avoir vu.
Il doit y avoir des critères.
J'ai pas d'avis.
C'est que c'est les notes en fait. Hein,
oui, j'ai compris, mais c'est difficile de noter.
Bon, allez, pub. On revient tout de suite pour le reste de l'actu du jour.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilles Darbribois.
22h47, Daniel Riolo est là, Thibault Leplat est là également. Info du jour avant de parler Ligue des Champions tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a quelques trucs intéressants qu'il faut qu'on partage, notamment liés aux récents incidents dans les stades. Juste avant, équipe de France, je vous signale que Ferland Mendy a été est forfait. Il a été rappelé par Vieretou. On se dit, tiens, étonnant, pas le même poste, mais en fait, c'est un petit jeu de domino. En fait, ça signifie que dans l'idée de Deschamps, c'est Camavinga qui redevient une sorte de doublure de Théo Hernandez comme latéral gauche. Vous voyez le truc ?
Oui,
il y a deux matchs de l'équipe de France.
On voit très très bien.
Vendredi 19 contre Gibraltar.
Alors moi, j'attends le match contre Gibraltar avec impatience parce que ça promet quand même un très très gros match. Mm-hmm. J'attends vraiment ce match.
Tu sais pas si ces matchs-là.
France-Gibraltar, je pense que ça va être l'événement de cette fin d'année quand même.
C'est vendredi de la semaine prochaine. Et après, t'as France-Grèce.
Un peu moins bien, un peu en dessous.
Ouais, la Grèce, c'est
pas possible. France-Gibraltar, pour lui, c'est l'occasion de d'offrir des buts à des attaquants. Donc les attaquants se battent pour jouer ce genre de match.
Ah, d'accord.
Et donc politiquement, il va donner des minutes à celui qui l'a.
Il va se jouer où, ce France-Gibraltar ?
Stade de France.
Ah oui, en plus. D'accord. Bah, écoute, très bien. On est ravis.
Toujours par de Rongier ?
Non.
Bah non, il y avait Veretout.
Bah, c'est vrai qu'entre les deux, c'est vrai
que Veretout. Oui, mais Veretout aussi.
C'est vrai que Rongier, c'est pas comme s'il pouvait jouer latéral.
Rongier, il est.
Et Veretout joue latéral.
Rongier, il a pas un agent ami. L'autre.
Bon alors, on a beaucoup parlé des incidents du week-end dernier, que ce soit à Ajaccio ou à Bordeaux. Rebondissement aujourd'hui dans les deux affaires. Parce que l'ACA sort de son silence et publie une vidéo. En fait, vous savez, ont été rendus publics les images de la vidéosurveillance. Et en fait, ça n'a pas du tout plu à l'AC Ajaccio et à son président, Alain Orsoni, qui communique et qui dit « Je n'avais aucune raison de douter de la véracité des déclarations des parents du petit Kenzo. »
Personne ne doutait quand on l'a écouté. Comment tu veux douter d'un truc pareil ?«
Car il m'apparaissait impossible qu'ils aient pu vouloir instrumentaliser leur petit garçon malade à des fins de bad buzz. Mais les éléments objectifs de l'enquête, et notamment le contenu de l'enregistrement de la vidéosurveillance, révèlent que la vérité est tout autre et que la gravité des agissements de certains supporters ajacciens au demeurant répréhensibles a été nettement exagéré. » Voilà ce que dit le président d'Ajaccio.
J'ai vu les vidéos, j'ai suivi l'affaire aujourd'hui, c'est effectivement troublant.
Ouais, moi, je trouve ça consternant, la réaction d'Alain Orsoni. Je trouve ça consternant, cette affaire, depuis le début. Peut-être on peut chipoter, argoter sur l'aspect légal. Est-ce qu'il y a eu vraiment, est-ce qu'ils l'ont vraiment frappé, pas frappé? On parle d'une famille, d'un gamin de 8 ans. On parle de gens qui arrivent dans des loges, on sait pas comment, parce que la vidéo, elle montre rien. On voit des gens qui marchent dans un escalier, qui rentrent dans une pièce. On voit rien d'autre dans la vidéo. Il peut se passer tout, plein de choses. Comment ça se fait que ces gens soient là?
Non, mais je suis d'accord
avec. C'est quoi cette idée des villes?
Il faut pas y aller, il faut pas faire peur.
Mais c'est ça le cœur du problème, Daniel. C'est ça le cœur du problème.
Il y a une mère qui dit, elle est là et elle est pas là. Comment ça se fait? La mère, elle est pas là.
Normal
tu te retrouves face à quelqu'un qui fasse cam avec son enfant à côté, peut-être. Maintenant, il faut vraiment se méfier de chaque mot. A peut-être menti. C'est gênant.
Je trouve que dans cette affaire-là, le problème, ça n'a pas été de savoir s'ils l'ont tapé ou pas. Le problème, c'est qu'on a cette logique d'hégémonie.
Taper l'enfant, déjà, tu passes de la barbarie à autre chose, déjà, quand même.
Ouais, enfin, pour moi, c'est aussi grave l'un que l'autre, en fait. Pour moi, c'est aussi grave. C'est-à-dire que cette logique débile de la stupidité du supporter ultra fanatisé qui va rentrer dans une tribune présidentielle, rentrer dans une loge pour faire enlever de force, je répète, un maillot qui déplaît à un autre et qui rentre et qui ensuite est fier de son acte et défendu par son président. Je trouve ça, c'est pour moi le symptôme même de la débilité humaine. Je suis désolé de le dire comme ça. Oui, mais c'est ça le cœur du problème.
Mais le problème, c'est qu'on vient ensuite
savoir est-ce que finalement ils sont rentrés, combien ils étaient dans
le fond. Mais c'est pas ça le problème.
C'est qu'aujourd'hui, on est presque obligé de douter de ce qui s'est passé. Puisque la personne qui t'a parlé a peut-être menti.
Rien que sur les images, tu vois des types qui sortent de nulle part.
Tu vois juste des mecs qui montent un escalier, qui rentrent dans une loge,
qui repartent triomphants avec un maillot de l'OM dans les mains. Qu'est-ce qu'ils font là?
C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. Oui. C'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est indéfendable.
C'est comme dans tout fait divers, il y a les témoignages et on se rend compte que il y a les témoignages qui en gros sont faux.
Moi, je me place
dans cette affaire-là.
Je me place sur un plan moral. J'assume la position morale. Sur un plan moral, c'est inacceptable. Sur un plan légal, on peut argoter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Il s'est pas rien passé.
Après tout. Voilà.
Donc ça suffit de.
Personne n'a dit qu'il s'est rien passé. On cherche absolument à laver un hypothétique honneur
de gens qui se sont déshonorés tout seuls. On cherche absolument à laver une sorte d'idée fausse qu'on a du supporterisme. C'est quelque chose qui est inacceptable. Qui a eu lieu. Maintenant, on baisse la tête, on a su, merci, au revoir. C'est tout, c'est inacceptable moralement.
Mais je te signale que les gens d'Ajaccio se sont exprimés sur cette histoire et sur les autres incidents. Il n'y a toujours aucune réaction du fameux président qui a fait une conférence de presse que tu as regardé 10 fois.
Mais il en a parlé de ça. Il en a parlé, il a dit que c'était honteux, qu'il fallait être un malade mental pour faire ça.
Non, moi je te parle de ce qu'ont fait les supporters de l'OM, il a jamais rien dit là-dessus.
Oui, sur la station.
Ah oui, c'est jamais exprimé là-dessus.
On en a parlé l'autre soir, je t'ai dit que j'étais d'accord avec toi, effectivement, il en a pas parlé.
Et les responsables politiques de Marseille non plus.
Exactement.
Pas un mot.
Mais pour moi, j'ai la même indignation à l'égard des supporters marseillais qui s'attaquent à un journaliste.
Et
la même indignation face au silence des gens qui protègent.
Que nous, nous ayons la même indignation, je veux bien. Mais j'aimerais quand
même. Pour moi, c'est la même chose.
Parce que dans cette histoire, il y a une responsabilité politique et une responsabilité des dirigeants également. Et j'aimerais qu'ils s'expriment. Et à Marseille, il n'y a eu rien. Pas un mot.
Totalement d'accord.
Et ça, c'est absolument lamentable.
Autre affaire, Bordeaux. Aujourd'hui, Clément Michelin joueur de Bordeaux, a publié un message sur Instagram. Alors, je fais référence à l'affaire Bordeaux-Rodez, hein, là, pour vous remettre à niveau. Et donc, Lucas Boades, agressé par un supporter, rappelez-vous, le week-end dernier. Et Clément Michelin dit, je cite Michelin, un supporter a donné l'opportunité à un tricheur de gâcher cette soirée. Donc, il qualifie Lucas Boades de tricheur. Je recite Michelin, un protocole commission qui nécessite un jour d'arrêt, point d'interrogation. Je suis très bien placé pour savoir que c'est un scandale, qu'on nous donne l'opportunité légitime de rejouer ce match et de finir la saison sans aucun regret, dit Clément Michelin.
Attends, de toute façon, mais en fait, ils ne veulent
il
pas.
Il dit comprendre. Ça parce que lui-même a dû observer un protocole commotion de quelques semaines, d'accord. Clément Michelin.
Oui, Michelin. Moi aussi, Michelin, j'ai un beau-frère qui. Bon,
Michelin
va,
est parfaitement gonflé parce qu'il devrait savoir que quoi qu'il en soit.
Michelin est gonflé, pas mal.
Oui.
T'as pas fait exprès. Dis-moi que t'as pas fait exprès.
Évidemment que si.
Oh, arrête oh là là. Non.
Mais évidemment que si.
Des jeux de mots involontaires.
Mais, non,
mais,
je te connais,
mais t'es
je
pas
te
obligé
connais.
De le souligner. Tu sais, ça doit passer tout seul. Enfin bon, bref. Il devrait savoir que quoi qu'il en soit, Bordeaux aura un match perdu. Ou au minimum retrait de points. Et que donc ils sont cuits. Ne serait-ce que parce qu'un supporter est entré sur la pelouse et l'a bousculé, qu'il y ait commotion, pas commotion, chiqué, pas chiqué. De toute façon, ils ne gagneront jamais ce match. Donc Michelin, c'est bon, il peut arrêter maintenant. Ils peuvent chialer autant qu'ils veulent, les Bordelais, c'est cuit. Et moi, j'ai de la peine pour la majorité des supporters bordelais qui se sont fait enfler toute l'année par les promesses de Lopez et de ses alliés ultramarines. C'est eux qui ont plombé le club.
Il y en a beaucoup.
C'est pas nous, en condamnant ce qui s'est passé, qui sommes responsables, alors qu'on se fait insulter sur les réseaux sociaux, comme si c'était nous qui étions rentrés sur la pelouse pour aller bousculer un joueur ou pour foutre la merde. Parce qu'en plus, le fameux supporter qui a bousculé, déjà quelques minutes avant, sur d'autres vidéos, on voit qu'il est encore sur la pelouse. Il se balade, il fait ce qu'il veut et il insulte à l'entraînement le gardien. Il y a des vidéos qui circulent là-dessus. Donc bon,
ils vont au final, Michelin est sorti de la piste quand même. Petite sortie de piste de Michelin.
Voilà. Ah. Michelin, c'est il aurait mieux fait de se taire parce que de toute façon, la commission de discipline, au minimum, elle donnera un point en moins pour l'année prochaine et match perdu. C'est certain, match perdu.
La seule attitude valable moralement dans cette affaire-là, c'est d'accepter ce qui s'est passé et de que le sport continue. Le sport, c'est aussi ça, c'est le fair play, c'est aussi ça, c'est reconnaître quand ton adversaire t'a gagné. Il s'est passé cet événement-là. Il y a beaucoup de supporters bordelais qui l'ont accepté. C'est évidemment pas tous la majorité qui râle. C'est passé. Donc tac, maintenant. On pense à la suite.
Et que Lopez pense à la suite et qu'il commence à aller chercher des sous pour la DNCG parce que ça va être très compliqué.
Dans un instant, les nouvelles affaires d'arbitrage à la Fédé et la finale de la Ligue des Champions. L'after est là jusqu'à minuit. On revient tout de suite avec vous au 32-16.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. RMC.
Ça va mettre la charrue avant les pleurs.
Très très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
On venait à Rennes avec l'ambition de garder le point qui nous était accordé au coup d'envoi. Ça a été fait.
Jusqu'à minuit, l'after-foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Thibault Leplat est là. On va parler Ligue des Champions dans quelques minutes avec Julien Laurence, avec Yoann Crochet. On va parler de Guardiola, on va parler des enjeux du match. On va se poser cette question, est-ce qu'on peut encore inventer des choses aujourd'hui dans le foot? On parle de tactique, hein, évidemment, entre autres. Ce sera tout à l'heure. Et puis la Juve, également au programme, avec Allegri qui reste, même si les supporters en veulent plus. Yoann nous expliquera pourquoi.
Mais Allegri doit avoir des dossiers sur la famille Agnelli Elkmann, parce que c'est...
Peut-être.
C'est pas possible, quoi, qu'il le garde.
Alors, ce sera tout à l'heure. Dossier arbitrage. Dans le SoFoot mensuel qui sort aujourd'hui, témoignage d'un ancien arbitre de Ligue 1. Ancien salarié de la Fédé, homosexuel. Il s'appelle Nicolas Potier. Il est arbitré en Ligue 1. Arbitre assistant. Qui dévoile les dessous de l'arbitrage français. Alors, je vous conseille évidemment ce papier dans SoFoot qui est absolument incroyable. On y apprend que les guerres entre arbitres vont bien au-delà de ce qu'on pense. Sur fond de dénonciations sur des réseaux sociaux, sur fond de faux profils sur des sites de rencontres. Enfin, c'est vraiment assez à la fois de pathétique et grave. Monsieur Potier, qui d'ailleurs sera dans l'after la semaine prochaine, hein, et il viendra témoigner lundi soir.
Ah, bah, pourquoi on en parle ce soir alors?
Parce que là, c'est sorti aujourd'hui, donc je voulais quand même qu'on en dise un petit mot. Et puis, je pense que ce week-end, ça va rebondir, puisque ce week-end, il y a l'Assemblée générale de la Fédé qui est prévue. samedi. On va parler de nouvelle gouvernance. Ça va être un des gros sujets de la semaine
prochaine. Ils se sont un peu affolés là en réponse, que ce soit Diallo, Borghini.
Bah, je vais y venir. Bah oui, parce que forcément, on leur met le nez un peu dans le.
Mm-hmm. Borghini, d'ailleurs, est cité à nombreuses reprises dans le.
Voilà, on leur met un peu le nez dans les problèmes. Donc, c'est ce que fait SoFoot. Donc,
alors, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Potier? Alors,
Nicolas Potier, je vais essayer de vous résumer tout ça, parce que c'est un panier de crabes. Nicolas Potier s'estime victime de discrimination, mais en même temps, il explique qu'il y a énormément d'homosexualité parmi les arbitres, non assumée, dit-il, et qu'aujourd'hui, faire partie de la communauté gay au sein des arbitres, ça peut aider à aller plus loin, parce qu'il y a des décideurs qui utilisent ces arguments-là pour dire, on va t'aider. Parce qu'en gros, par solidarité,
avec une sorte de système féodal.
Les décideurs, c'est les gens qui mettent les notes, c'est les gens au niveau départemental, régional, qui gèrent l'arbitrage, qui font monter les arbitres.
C'est le cas de la région Île-de-France aussi.
L'ancien responsable de l'Île-de-France s'est fait virer pour ça parce qu'il demandait des faveurs sexuelles à certains jeunes arbitres pour les faire monter. Tout ça est dans le papier de SoFoot. Enfin, cette affaire-là en Île-de-France, on la connaissait.
C'était une affaire.
Voilà. Enfin voilà, je vais pas tout vous dévoiler du papier. Il faut le lire vraiment à tête reposée, mais c'est totalement édifiant. Enfin, ce qui est surtout incroyable, c'est que c'est une nouvelle affaire à la Fédé. Parce que on tait tout ça, faut pas que ça se sache, parce que vous comprenez les problèmes, plutôt que les régler, on les cache. Ce qui a inspiré un avis à Thibaut ce soir, jingle le plat.
Cette saison qui va pas se terminer en queue de boudin.
Joli, c'est joli.
J'entends que t'avais pas entendu celui-là.
Ouais. Oui, t'as été quand même contrarié par tout ce que t'as lu là.
Parce que c'est à la fois consternant, mais en même temps assez familier. Parce que on retrouve toujours un peu les mêmes ingrédients des scandales du sport français, à savoir le paternalisme d'un côté, une sorte de féodalisme un peu archaïque, c'est-à-dire un échange de faveurs basé sur un rapport de domination, de l'incompétence, on le voit dans la manière, dans le système de notation, le système d'évaluation des performances, le système de nomination, et une forme d'impunité aussi à l'intérieur de la fédération à l'égard de ceux qui ont commis des faits répréhensibles. Et on dresse une sorte de portrait un peu en creux de ce qu'est le sport français. Je vous renvoie à l'affaire Le Gret du début d'année sur la question du harcèlement sexuel. Je vous renvoie à les affaires dans la fédération de patinage, etc., etc. Toutes les grandes fédérations sont concernées par ça, avec toujours en point de commun cet entrisme et cet archaïsme du fonctionnement. Et donc c'est quelque chose qui peut être à la fois inquiétant, parce que consternant, ce qu'on y lit, c'est toujours un peu consternant, on se demande comment c'est possible. Mais en même temps, je crois que c'est finalement assez rassurant, parce que ça sort. Parce que ça sort, parce qu'on en parle, parce qu'un grand média comme SoFoot en parle, on fait sa couverture de ce mois-ci, parce que nous on en parle, parce que les choses doivent évidemment changer, et si elles changent, c'est pas complètement un hasard que ça arrive maintenant. Je regardais un peu dans les archives, un peu les grandes histoires de scandales dans le sport. Je suis remonté, par exemple, aux années 90. Bon, cette fois-ci, c'était la question de l'affairisme, question des caisses noires et autres. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça qui sont sortis comme ça en cascade au début des années 90, pour une bonne et simple raison, que la France venait d'être désignée comme pays hôte de la Coupe du Monde 98, et qu'au nom de la Coupe du Monde 98, il fallait nettoyer un peu le sport français. Bon, là, il se passe exactement la même chose avec les JO. Cette fois-ci, c'est plus l'affaire d'argent, c'est les affaires de pouvoir et les affaires sexuelles. Donc, c'est finalement, je crois, plutôt une bonne chose, même si la vérité est toujours très difficile à entendre, très difficile à voir. Mais je crois que maintenant, on est peut-être prêt à l'entendre. Et il se passe finalement dans les grandes fédérations, ce qui se passe dans les grandes institutions. Et je pense notamment à l'Église, par exemple. Il y a eu beaucoup de cas comme ça dans l'Église. Il y a un rapport très fourni sur ces questions-là, et toutes les grandes institutions sont touchées. Je renvoie à MeToo, je renvoie au cinéma, je renvoie à la culture, à la politique. Le sport ne peut pas faire l'économie de ce genre de période, même si je pense que on a touché le fond, et maintenant il serait temps de prendre acte de tout ça et de enfin renouveler tous ces gens qui reviennent toujours, hein, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, ce sera enfin renouvelé.
Alors, justement, pour vous, et avant que Daniel donne son avis, Eric Borghini, donc, qui est le président de la commission fédérale d'arbitrage, donc, qui est l'homme qui chapeaute tout ça, qui était déjà membre du COMEX de la Fédé, qui était déjà au centre de l'affaire Le Graët il y a quelques semaines, a eu une réaction assez dingue, en fait. Parce que, alors, il dit, il est avocat, hein, alors il dit, moi, le conseil de mes maîtres n'a jamais été autant d'actualité. Choisir avec qui parler est important. Comprendre avec qui garder le silence l'est encore plus, puisqu'il a refusé de répondre à SoFoot. Et il dit, j'avais cru naïvement que SoFoot était un magazine sportif consacré au football et à la promotion de ses valeurs. Enfin, excusez-moi, monsieur Borghini.
C'est justement de dénoncer ce genre
d'acte. C'est ça le paternalisme. C'est te prendre de haut en t'expliquant ce que tu dois faire. Exactement. Que si tu ne fais pas, et c'est d'une sorte de menace. Et
puis c'est aussi une méconnaissance du fonctionnement des médias. Je veux dire,
c'est une manière de prendre de haut.
Ces gens-là pensent que les médias ne doivent s'occuper que de relayer ce qui leur semble bon à eux. C'est à faire de la com, mais surtout pas de faire des enquêtes. Borghini, pour lui, il ne fallait jamais dire ce qu'avait fait Le Graët pendant des années, à part dire que tout était formidable. Ces gens-là, évidemment. Alors, j'ai entendu l'avis de Thibaut. Oui, là, t'as raison, mais j'ai tellement entendu deux fois répéter qu'il fallait passer à autre chose.
C'est pas passer à autre chose, c'est au contraire ouvrir. Mais
passer à autre chose par rapport à ces hommes-là.
D'accord.
C'est-à-dire les écarter une bonne fois pour toutes, enlever l'ancien système, tous ces barons locaux qui se tiennent entre eux,
le féodalisme, leur petite tambouille. C'est ce système de parrainage.
C'est du clientélisme.
C'est du féodalisme. C'est-à-dire quand tu as le seigneur qui est propriétaire de son serf et qui a le droit de cuissage.
Mais c'est le fonctionnement qu'il faut changer. Parce que tu peux mettre d'autres hommes, ils rentreront dans le même système. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont élus, pour garder le pouvoir, ils vont continuer à arroser la vieille image qu'on utilisait tout le temps, on va tuer les sacs de ballons. Ils vont distribuer les sacs de ballons, et puis même si c'est pas que ça, parce que parfois c'est pire que ça.
Il y a un élément important, Daniel, dans ces affaires-là, ce qui est commun, c'est la question des réseaux sociaux. Là, il y a notamment un passage, je vais pas arriver tout le papier, parce qu'il faut aller l'acheter, ce magazine. Il faut que les gens soient payés. Mais il y a l'omniprésence des réseaux sociaux qui permettent en fait une caisse de résonance et une libération de la parole et qui est essentielle et qui change le rapport de force dans ce féodalisme et qui s'est absolument pas fait à cette idée. On en reparle souvent, on en parle avec les joueurs, la question, vous savez, de l'horizontalité du savoir, l'horizontalité de la société. C'est-à-dire que maintenant, le savoir les rapports de pouvoir, ils sont horizontaux. Chacun parle d'égal à égal. Demain, j'ai envie de parler à Macron, j'envoie un message sur Twitter. Tu vois, c'est ça l'horizontalité. Donc la société est devenue horizontale. Or, ces institutions, elles, sont extrêmement verticales. Elles sont quasiment militaires comme organisation. Donc,
c'est d'une cruauté extrême, voilà. Le milieu des arbitres.
C'est militaire, tu vois, c'est militaire. Ces institutions verticales sont obligées de se réformer parce qu'elles sont en train de perdre complètement la société sur laquelle elles sont censées exercer une influence et un pouvoir.
On en reparlera donc lundi avec Nicolas Potier qui sera ici avec nous dans l'after. La semaine prochaine, on devrait aussi rester bien à l'écoute. On devrait aussi recevoir Kaira Amraoui, normalement, qui sort un livre.
Bien sûr qu'elle va venir.
Donc c'est dans les tuyaux. On ne sait pas encore quel jour exactement. A priori mercredi pour parler foot féminin. Mardi, a priori, me dit Jérôme Thomas qui s'occupe de tout ça. Et donc l'occasion de revenir sur toutes les affaires du foot féminin cette année.
Oui, t'aurais pas fait petite boulette comme t'aimes bien faire au sujet d'une affiche.
Une affiche. Je sais pas, peut-être.
Stade de France, France-Gibraltar.
C'est pas. Non, j'ai confondu avec France-Grèce alors. C'est Gibraltar-France.
Ah, voilà.
Oui, bon, c'est France-Grèce qui est au Stade de France.
Voilà.
On avait corrigé.
Non, on n'avait pas corrigé. Ah, mais quand j'ai perdu un truc, moi je le crois.
Oui, mais Daniel, ça fait 17 ans que nous sommes en direct. Quand tu es en direct, on ne fait pas des montages, nous. On n'est pas là à corriger, a posteriori.
Et comme il se rattrape.
Ben oui, mais écoute, non, moi, je
corrige après.
J'assume la part
chapeau,
de risque.
Il y a toujours un moment. Il y a toujours une petite boulette qui traîne.
En 17 ans de direct, il y a forcément un moment, tu sors une merguez, forcément. Donc ça arrive. Voilà. Et tu essayes. Oui, mais c'est ça.
Non, mais il y a des thèmes. Gilbert, il n'en sort pas.
Très franchement, en 17 ans, s'il y en a eu 10, c'est déjà le monument.
Gilbert, t'es arrivé de dire des bêtises.
Gilbert, il n'en fait pas. Sauf ça. Ça, c'est son truc, c'est son obsession. Chapeau, affiche de match, machin.
Alors tiens,
là il y a glissade, il y a glissade permanente.
Ça me permet de vous annoncer qu'on va également, on est au mois de juin, relancer nos fameux chapeaux à la demande générale. On va réorganiser ça.
Franchement, il faut trouver un système.
Parce que j'ai pas participé.
Oui, mais il faut trouver un système un peu moins embrouillé que d'habitude. Ces derniers temps, on était un C'est un peu confus.
Tu me permets, parce que si moi j'ai une faiblesse sur les chapeaux, toi tu as quand même une faiblesse absolue sur cette opération-là, parce que tous les ans depuis 10 ans,
le règlement n'est jamais adapté.
Non, mais là cette année il faut qu'on fasse mieux. Puis c'est lui-même qui après quand on démarre le truc nous fout un foin pas possible à pas respecter.
C'est un peu le Djokovic.
Parce que chaque année j'envoie des mails chapeaux, précis sur les critères et les mecs débarquent. Oui, alors moi j'ai envie de mettre lui et personne respecte les critères. Alors moi je fais le mail pour rien.
Respecte tes critères.
Peut-être parce que tu as façon dictatoriale d'envoyer un mail.
Mais alors dans ces cas-là, ils ont qu'à dire non. Il faut pas qu'ils disent oui et puis après quand ils arrivent à l'antenne, ils respectent pas les règles.
Regarde, ils ont voté à 99% pour moi, après ils sont pas contents maintenant.
Non.
Quelle est la capitale du Riolistan?
Attends. Alors, Thibaut, il a jamais participé au chapeau. Il a rien fait la police des chapeaux.
Non, mais j'écoute.
Tu n'arrives pas à faire la police des chapeaux.
Depuis de nombreuses années, j'ai constaté que Daniel avait
cette année, il va pas le faire, ça lui apprendra. On va le mettre hors chapeau.
Mais j'étais déjà hors chapeau, donc ça peut pas être pire.
Par contre, au niveau des consultants de l'After, t'es chapeau 1 quand même.
Ah, non, mais ça, ok, mais.
Là, je vous remercie.
Mais je suis pas sûr qu'on prenne ses chapeaux, du coup.
Ça dépend dans quel ordre, mais.
Tu respectes pas les critères.
Allez. Yoann Crochet, Julien Laurence nous attendent pour parler Ligue des Champions. C'est dans quelques instants. La finale sera sur RMC samedi soir, bien sûr, en intégralité. À tout de suite.
Je suis avec le coach de la Team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari. Le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
23h17, la Ligue des Champions au programme dans l'after jusqu'à minuit désormais avec Daniel Riolo, avec Thibault Leplat, avec Julien Laurence qui nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et avec Johan Crochet, l'homme qui tremble, qui ne veut pas être Fanny, 0 sur 3. Johan, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous. Il pourrait y avoir un 0 sur 4, hein, si l'Italie va en finale de la Coupe du Monde du vin, ça se trouve, ils peuvent aussi perdre la finale.
Ah, il y avait la première demi-finale tout à l'heure.
En Ligue des Nations aussi, tu peux perdre aussi.
Ouais, exact.
La chose que l'Angleterre peut pas trop faire. Au fait, la Ligue des Nations.
Bah, c'est là, en juin, là.
C'est bientôt.
Et sur les U20, il y avait la première demi-finale tout à l'heure, Uruguay-Israël, performance assez étonnante d'Israël. Ils ont perdu en demi-finale contre l'Uruguay, mais ils sont déjà allés très loin quand même, les Israéliens. Là. L'Uruguay est en finale donc, et affrontera le vainqueur d'Italie-Corée du Sud, si j'ai bonne mémoire.
1-0 pour l'Italie, but à l'instant de Casadei.
Oh, bah, c'est bouclé alors. Oh,
bien sûr, qui d'autre?
C'est bouclé.
Et oui.
Ah, donc tu sors la victoire de l'Uruguay en finale,
non,
Julien?
Victoire de l'Italie en finale. C'est bouclé.
Vu ce que l'Angleterre a fait avec Casadei, c'est normal qu'il soit aussi fort aussi. Hein.
Ah ça y est, regarde-le lui. Là.
Bon, démarrons étape par étape. Daniel, on va se mettre un petit jingle Riolo, puisque Daniel voulait parler de Guardiola et de l'enjeu pour lui de ce match de samedi soir qui sera, je le rappelle, sur RMC. Jingle, Daniel.
Faut donner un vrai prénom, Léo on s'appelle Messi, pas comme un animal. Bob, enfin, c'est un nom de chien.
C'est vieux ça.
Pourquoi on avait fait parler des prénoms? Ah oui, de ceux qui appelaient leur enfant Bob ou des choses comme ça.
Oui, bon, on s'en fout.
Bob, Bob, c'est un diminutif. Tu appelles ton fils Robert.
Sujet,
et après, si tu veux l'appeler Bob, tu appelles Bob dans l'intimité. Mais c'est pas Bob.
Et maintenant, on donne des noms de personnes aux voitures aussi. Bah, Clio, tout ça. Une voiture. Mégane, c'est des prénoms, tout ça.
Et Pep, alors Pep, c'est un
diminutif. Son identité, Joseph. C'est Joseph.
Joseph,
j'imagine.
Pourquoi est-ce que tu veux aborder cette finale sous l'angle
ce prénom, c'est avec Julien. Après, les gens, s'ils veulent l'appeler Jules, lui coller ce sobriquet, ils peuvent. Et Jo, je ne sais pas si des gens l'appellent comme ça, c'est un diminutif, mais il ne s'appelle pas Jo. Crochet.
On a compris, merci.
Non, je préfère expliquer.
Donc pourquoi est-ce que tu veux aborder cette finale sous l'angle de Guardiola?
Parce que, à mon sens, il a pas le droit de perdre. C'est compliqué de dire ça. Et en plus pour moi, hein, puisque j'ai dans ma famille tellement d'interistes, on me dirait j'ai autant de Juventine et que d'interistes et les uns détestent les autres. J'ai pas tellement envie de les voir pleurer et malheureux au soir de cette finale. Ils y croient tellement et c'est tellement inattendu pour eux d'être en finale. Pourtant, comme tout le monde, j'imagine, je vois Manchester City gagner. Et je crois qu'ils vont être très largement favoris de cette finale. Peut-être même
trop favori. Et pourquoi j'estime que Guardiola ne peut pas perdre? Parce que ça fait longtemps qu'il attend, qu'il y a comme une forme de récompense pour le travail accompli qui semble lui être promise. Il n'a pas réussi dans ses clubs récents, au Bayern, on avait dit on le prend pour ça, et il n'a pas réussi. Et City, ces dernières années, à chaque fois qu'il perdait, c'est vrai que c'était dans des matchs au scénario complètement rocambolesque, surréaliste, et ça semblait à chaque fois pas mérité. C'est comme si le mérite, Guardiola, parfois, lui échappait. Parce que toutes ces défaites, j'ai en tête évidemment Tottenham, j'ai le Real de l'année dernière, il doit m'en manquer, Julien, des défaites de,
ouais, Lyon, bien sûr.
De Lyon avec Sterling et la frappe que d'un beau plat du pied, même Thibaut aurait mis au fond.
Même le plat du pied.
Même le plat du pied. Il y a toujours effectivement l'idée que s'il joue, si tout se passe normalement, si la loi de la supériorité du mérite du foot va dans le bon sens, Guardiola devrait gagner à tous les coups. Malheureusement, jusque-là, ça n'a pas été le cas. Et là, oui, il y a une forme, je ne sais pas, c'est comme si c'était un peu écrit, il y a déjà les compétitions qui ont été gagnées, le titre, alors que cette année, ça avait l'air compliqué, ils l'ont fait. La Cup, ça semblait plus évident, ils l'ont fait. Et cette Ligue des Champions, bah, elle est là, face à l'Inter en plus. On s'attendait pas à ce que ce soit cette équipe-là. Ils sont tellement supérieurs sur le papier qu'ils doivent gagner. Et je terminerai en disant que favori, trop favori, oui. J'ai même pas envie qu'ils ne gagnent pas parce que j'ai pas envie d'entendre les médiocres se jeter là-dessus comme des chiens qui n'ont pas mangé depuis une semaine sur un nonos et dire « Ah, regardez comme l'autre lui a encore donné la leçon tactique ». Parce qu'à chaque fois qu'on bat Guardiola, même au terme d'un scénario complètement dingo, l'autre entraîneur a trouvé la solution pour terrasser le grand Guardiola. Ça, c'est souvent l'argument des médiocres. Et puis, c'est vrai qu'en plus, il a moyennement le droit de perdre Guardiola parce que lui qui incarne un peu cette forme d'excellence et puis l'exigence qu'il s'impose et qu'il impose, elle ne reçoit souvent aucune excuse en retour. S'il perd, c'est forcément de sa faute, de ses expérimentations. Et c'est vrai qu'il a pu fauter parfois par une forme de, je sais pas, peut-être de complexe de supériorité très mal placé qu'il a pu avoir sur certains matchs. Mais ce soir, tout ça devrait s'arrêter. Il a pas gagné depuis la grande époque du Barça. Bon, après, la logique serait que, avec Manchester City, la boucle soit bouclée et qu'il termine cette saison absolument extraordinaire qui serait peut-être l'une des plus grandes et plus belles de sa carrière et d'un club anglais.
Alors, l'avis de Thibaut et ensuite Julien et Johan.
Oui, après, moi, je ne crois pas qu'il faille évaluer évidemment l'héritage de Guardiola et son importance au regard de la Ligue des Champions. C'est un critère de fait. Laisse-moi parler. C'est un critère de fait. De fait, c'est un critère médiatique, un critère public qui est incontournable. Mais de droit, il a gagné depuis longtemps sa place au panthéon des entraîneurs européens et des entraîneurs mondiaux. Et je crois même tous sports confondus. On en avait parlé déjà la dernière fois que je suis venu. Donc moi, effectivement, je pense que il a une obligation en fait de gagner ce match-là pour gagner un petit peu de tranquillité. Mais son titre de meilleur entraîneur du football, pour moi, il est gagné depuis longtemps. Et il peut arriver plein de choses. Le football est comme ça, surtout cette compétition-là. Justement, l'Inter est pas du tout attendu. Donc peut-être si dans le premier quart d'heure, l'Inter est capable de mettre un but, c'est une équipe qui a énormément de mal à jouer quand elle, le score est contre elle. C'est une équipe qui, en termes de gestion émotionnelle, est peut-être moins capable de supporter une pression adverse, mais si City prend le jeu à son compte et qu'au bout d'une demi-heure Inter a touché le ballon et qu'il mène 2-0,
c'est ça qui va se passer, le jeu à son compte.
C'est ce qui doit se passer pour qu'il gagne. Voilà. Donc après je laisserai les autres qui en diront certainement.
Moi je pense que c'est ce que tu dis ne me contredit pas, évidemment que à mes yeux, à tes yeux, il restera
Julien,
le fort, le plus grand, l'inventeur, le machin et c'est cela. Mais il n'y a pas que des gens comme nous dans le foot. Et
c'est pour ça que j'ai distingué les deux plans.
On peut estimer que, alors évidemment, comme je l'avais dit, je le dis toujours, je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas Guardiola et le jeu qu'il fait pratiquer à ses équipes. Toujours est-il qu'il y a des gens qui l'attendent au coin du bois. Et à un moment, il faut quand même la gagner, cette Ligue des Champions, pour réaffirmer que t'es le plus fort et que t'es le plus grand.
Julien, est-ce que t'es d'accord avec Daniel et Thibaut qui globalement sont d'accord?
Oui, bien sûr, mais on avait déjà parlé la dernière fois quand on avait fait la demi-heure un petit peu spéciale sur Pep. Ce qui est sûr, en tout cas, qu'on soit d'accord avec nous, avec Daniel, avec Thibaut ou pas, c'est que la pression, elle est là. La pression, elle est là parce que Yo le dira tout à l'heure, l'Inter, Daniel l'a dit, c'est une finale inattendue. Leur saison, elle est déjà réussie. Ils ont gagné la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie. Ils ont battu le Milan en demi-finale en plus. Ils ont fini dans les quatre premiers du championnat. Donc, quoi qu'il arrive, ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ont gagné 11 de leurs 12 derniers matchs. Voilà. Pour eux, c'est réussi. Ils perdront contre une équipe qui est peut-être la meilleure équipe du
Personne
monde.
Personne leur en voudra.
Voilà, exactement. Ils gagnent, c'est un truc extraordinaire. On en reparlera dans 100 ans. Voilà. Mais la pression, elle est sur City. La pression, elle est sur Guardiola. Guardiola lui-même a reconnu l'autre jour. Il a dit, si on gagne pas cette finale, il manquera quelque chose. Il avait jamais dit ça avant. On lui a posé un milliard de fois la question sur la Ligue des Champions et est-ce qu'il lui faut absolument regagner encore une fois ce trophée. Et là, pour la première fois, il a dit, si on gagne pas là, effectivement, ce sera un échec. Il y a 2 ans contre Chelsea, où ils n'étaient pas aussi favoris qu'ils le seront après-demain, parce que Tuchel l'avait déjà battu, parce que cette équipe de Chelsea, elle était faite d'une façon où on savait qu'elle allait embêter l'équipe de Guardiola et de City, encore plus quand il n'a pas joué avec un vrai numéro 6, mais ça, on ne le savait pas avant la finale. Mais donc, c'était pas comme là ce week-end, c'était pas comme samedi, contre Chelsea, donc la plus récente qu'il a perdue. Et je pense que cette pression, il la sent. Est-ce qu'elle le dérange aujourd'hui? Je pense pas. Moi, on me dit qu'ils sont plutôt sereins dans le camp. Ils sont plutôt. Guardiola fait que de répéter aux joueurs. Je ne veux pas que vous considériez cette finale gagnée avant qu'on la joue. Elle n'est pas gagnée d'avance. Tout le monde sous-estime l'Inter. Faut pas les sous-estimer. Tout le monde nous dit grandement favori. On n'est pas des grands favoris. Ce sera difficile. Ce sera compliqué. Ils vont bien défendre. Ils vont jouer bas, etc. Donc, lui, il est en train de lutter contre peut-être un effet de c'est quoi, je cherche le mot en français, mais tu vois que ces joueurs sont trop optimistes avant la finale, donc voilà, mais je pense qu'il sait que la pression est là et parfois quand il y a eu trop de pression, il en a un peu souffert.
Johan, ton avis?
Moi, je suis assez d'accord avec Thibaut. Un détail près, c'est que, en fait, même s'il gagne, ça ne fera taire personne, parce que, en fait, le premier truc qu'on dira, c'est, ouais, mais vous avez vu, avec les milliards qu'il a dépensés, c'est bien normal de gagner la Ligue des Champions.
Non, c'est pas du tout comme ça. Ça, c'est ceux qui ne comprennent rien qui disent ça.
Oui, c'est exactement ce que je viens de dire.
J'avais envie de le répéter.
D'accord. Okay. parce que moi, quand j'avais parlé un soir dans l'after avec Julien de Guardiola, en expliquant l'admiration que j'avais pour lui, le nombre de messages ouais, mais avec les milliards, c'est facile.
Regarde le PSG,
c'est
pas
le truc
facile.
Qui revient à chaque fois. À Barcelone, il a gagné parce qu'il avait un grand Messi. Au Bayern, parce qu'il était le meilleur club d'Allemagne. Et puis à Manchester City, parce qu'il a dépensé des milliards. Donc je pense que ça fera taire personne, parce que ceux qui n'aiment pas Guardiola continueront à ne pas l'aimer et à trouver toutes les excuses possibles.
Oui, sauf qu'il y a aucun motif à part l'ignorance pour pas aimer le jeu qu'il fait pratiquer à ses équipes.
Ça, c'est pas moi qu'il faut le dire. Daniel, mais ça existe, c'est une tendance, ça existe vraiment. Qu'il ait la pression demain, samedi soir, c'est clair, c'est net, c'est réel, parce que en plus il y a une histoire de parcours. Tu peux pas battre le Bayern et battre le Real pour t'effondrer contre l'Inter en finale. L'Inter, évidemment, que la saison est réussie, que eux ils sont totalement outsiders, que ils en jouent d'ailleurs de ce truc de ouais, vous voyez City, tout le monde les voit gagner, ils sont déjà limite en train de célébrer, mais on va leur montrer que nous on est capable de leur poser des problèmes, etc., etc. Néanmoins, moi je pense sincèrement que l'héritage de Guardiola va au-delà des trophées, et donc pour moi, à titre personnel, ça ne change strictement rien qu'il gagne ou pas la finale samedi, qu'il en gagne ou pas une autre. Il en a déjà gagné. Il a gagné de multiples championnats dans tous les pays. Moi, j'estime, et je suis à contre-courant là-dessus, que c'est plus dur de gagner un championnat que de gagner la Ligue des Champions. On pourra détailler ça un jour, mais moi,
c'est dur différemment.
C'est ce que Guardiola dit. Hein.
C'est dur différemment.
C'est ce que Guardiola dit.
Moi, je pense que c'est plus dur dans la mesure où je suis pas d'accord.
L'aléa est beaucoup plus important en Ligue des Champions qu'en championnat. C'est ça. C'est dans ce sens-là que c'est plus dur, dans le sens où tu le maîtrises pas. Ce qui est maîtrisable, tu le maîtrises plus facilement en championnat qu'en.
Oui, mais justement, tu peux pas tout maîtriser. Il y a un côté émotionnel que Guardiola ne veut pas voir dans le football, parce qu'il veut tout régler.
C'est la limite.
Il veut tout régler par le jeu, et là-dessus, il a une limite.
C'est pour ça que sur un match comme ça,
l'émotion, la pression et le caillou dans la chaussure qu'il a eu l'année dernière quand il y a eu l'égalisation du Real, ça fait partie du jeu et ça il a pas su le gérer. Et vous savez à quel point j'adore cet entraîneur, mais il a parfois quelques défauts. Et la pureté du jeu, et là-dessus, il ressemble un peu à Sacchi. Ces obsessionnels, à un moment, peuvent avoir une limite.
Tous les
aussi.
Problèmes n'ont pas une réponse tactique.
Tout n'a pas ça. Et le côté émotionnel dans le football et dans le sport du haut niveau, ça se gère aussi. Et lui, parfois, ça, il le prend un petit peu par-dessus la jambe et ça ne me plaît pas.
Tu parlais de Sacchi, c'est les ayatollahs du jeu.
Mais voilà. Mais moi, ayatollah, en règle générale, ça a toujours une limite pour moi.
Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est la meilleure.
Je suis despote éclairé, moi. C'est pas du tout pareil.
D'ailleurs, j'ai Nix sur Direct Jeu qui
le rôle de Voltaire.
Il a trouvé le nom de la capitale du Riolistan. Ah oui, il dit, bah, la capitale du Riolistan, c'est évidemment, je l'avais dit.
C'est fantastique.
C'est pas mal.
Alors là, franchement, je l'embrasse. Elle est géniale, celle-là.
Dans un instant, les gars, on continue le débat avec cette question que Thibaut veut poser. Est-ce qu'on peut encore inventer des choses dans le foot aujourd'hui? Ah ben, ça fait écho à Guardiola qui est souvent taxé d'inventer des trucs parfois étonnants. On en débat dans quelques instants avec vous tous. Et puis ensuite, on parlera de la Juve et d'Allegri. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h35, Daniel Riolo est là, Thibaut Leplat est là, Julien Laurence est là et Johan Crochet est là également. On parle de la Ligue des Champions. Petit message informatif pour les abonnés de la revue de l'After. On est en pleine campagne de réabonnement. Allez sur afterfoot.media. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y parce qu'il y a des offres intéressantes. Vous pouvez en plus commander la revue.
C'est bientôt.
Off fête des pères, exactement, moins 40%. Et je vous glisse également que si vous êtes déjà abonné, il faut checker vos coordonnées bancaires pour voir si tout est toujours OK. Voilà, afterfoot.media avec toujours évidemment l'édito de Thibaut. Et puis vous retrouvez à l'intérieur de la revue le meilleur de Johan Crochet et de Julien Laurence, comme tous les soirs dans l'After, évidemment. La question donc, et je vais demander d'abord à Julien et Johan pour une fois de répondre en premier. Guardiola en finale, on a parlé longuement de ses méthodes, son style, son impact sur le football mondial l'autre jour. Est-ce qu'on peut encore inventer des trucs? Lui, c'est une sorte d'inventeur. Aujourd'hui, est-ce qu'on a tout vu dans le foot? Est-ce que vous vous dites, tiens, finale de Ligue des Champions, c'est l'occasion de voir peut-être quelque chose de nouveau?
Ah non, là, justement, il ne faut pas qu'il invente. C'est pour ça que je veux, derrière ta question, je veux très vite qu'on...
Heureusement que je voulais qu'Yohan et Julien...
Là, il n'inventera pas. Je veux que Julien me parle tout de suite et le concret, c'est...
On trouve la deuxième ville du
Qu'on n'ait pas d'invention sur cette finale. On ne se prépare pas à ça, j'espère.
Non, je vais te rassurer, ce sera si Kyle Walker qui a eu quelques petits soucis au niveau du dos cette semaine est bien opérationnel. Après, il y a un choix à faire peut-être entre Akanji et Ake, s'il préfère un gaucher dans ce poste-là de défenseur central côté gauche, voire arrière-gauche parfois, ou il est très content avec Akanji. Pour le reste, ça devrait pas bouger. On aura Rodri encore et Stones au milieu, la plupart du temps, en tout cas, cette petite boîte qu'on avait expliquée longtemps, d'ailleurs peut-être copiée dans un sens, ou en tout cas imitée un petit peu sur ce que De Zerbi fait à Brighton, avec ensuite Gundogan et De Bruyne, et puis bien sûr Grealish, Bernardo Silva qui devrait quand même être préféré à Riyad Mahrez à droite, Haaland en pointe, et puis après Stones, Diaz, Ederson dans les buts, ça change pas. Mais sur les inventions dans le foot, pour moi il y a plein de choses qui ont aussi été tentés par le passé, qui reviendront après. On verra sûrement des choses qu'on avait peut-être vues dans le passé. Mais la transformation de Stones, sincèrement, autant par exemple un Cancelo qui entre un petit peu au milieu de terrain, comme on avait pu faire par exemple un Philippe Lahm, comme Guardiola, ce qu'il avait fait avec Lahm, c'était peut-être plus prévisible entre guillemets, je vais dire, même si c'est ça. À un moment, ce que Cancelo apportait à cette équipe de City était extraordinaire. Lui qui est quand même qu'un latéral. Autant Stones, sincèrement, personne l'a vu venir ici en Angleterre. Je pense que même des gens dans le staff de Pep Guardiola l'ont pas vu venir. Je pense que même John Stones lui-même ne l'a pas vu venir. C'est à un moment quelqu'un qui était même pas sûr de jouer défenseur central, donc dans son vrai poste cette saison. Et de là de le voir faire ces performances-là.
Qu'est-ce qu'il y a de si fantastique? Je pose la question également à Johan parce que je sais qu'il regarde tout ça, à nous tous ici. Finalement, si on n'a pas trop regardé de près ce qui s'est passé, t'es juste en train de nous dire qu'un défenseur central est monté d'un cran pour jouer au milieu du terrain. Tuchel avait essayé de faire ça avec Marquinhos, par exemple.
Oui, voilà, tout à fait. Alors, Marquinhos, c'était pour venir en sentinelle. Le poste de sentinelle, comme ça, juste dans un milieu à trois, est beaucoup plus facile à jouer que le rôle qu'a Stones aujourd'hui dans un double pivot avec Rodri à ses côtés, où t'as besoin de beaucoup plus que simplement être un mec solide qui peut être bon techniquement.
Ouais, il faut avoir un pied.
Oui, mais qui va jouer en sentinelle finalement comme tu jouerais en défense centrale. C'était un petit peu le rôle de Marquinhos. Tu vois, il pouvait pas.
Que jouer en sentinelle. Il monte, il se met entre les intérieurs. Il est quasiment numéro 10 sur beaucoup de.
L'action, parfois, c'est assez rare dans le jeu. Généralement,
les joueurs généralement quand ils changent de position, ils reculent. C'est très rare de les voir avancer, et encore plus avancer deux lignes quasiment.
Mais voilà, en fait, ça constitue une sorte de bloc de 4 au milieu qui permet aux latéraux d'être beaucoup plus haut.
Alors, il n'y a plus de latéraux, justement, dans ce système-là. Voilà. Là, cette petite boîte que tu as, Rodri et Stone sur la même ligne, et puis devant eux, Gundogan et De Bruyne sur la même ligne aussi. Tu as tes trois défenseurs centraux derrière qui sont Akanji, Diaz et Kyle Walker. Stones, parfois, on l'a vu contre le Bayern, un petit peu moins contre le Real, notamment lors du match retour. Mais notamment quand l'adversaire récupère le ballon ou même sur les 6 mètres adverses, par exemple, il va revenir à hauteur de Ruben Diaz. Tu auras une vraie défense à 4 qui sera alignée. Et à ce moment-là, il sera redevenu un défenseur central. Et quand City récupérera le ballon, là il montera d'un cran effectivement, voire de deux crans comme l'a dit Thibaut, pour venir au milieu de terrain, proposer une solution déjà au porteur du ballon, pour ensuite aider la défense derrière lui avec Rodri. Quand t'as un mur Rodri Stones devant toi, ne serait-ce que le gabarit déjà, mais en plus l'intelligence de jeu qui produit.
Est-ce que c'est pas surtout derrière ça le changement? Moi je me souviens de Guardiola qui dans cette zone du terrain était souvent un peu léger, il prenait des risques, et d'ailleurs on se réfère au match dont tu parlais tout à l'heure où il avait joué 106. Là justement il a beaucoup solidifié cette partie du terrain. Tu parles de mur quand les mecs arrivent et se fracassent sur Rodri et Stones qui sont excellents et qui semblent devoir libérer les autres qui sont dans le espèce de mouvement perpétuel. Parce que est-ce que c'est pas ça finalement aussi, c'est le dézonage d'un petit peu tout le monde, quoi. Tu te retrouves avec des latéraux à droite à gauche. C'est pas ça aussi.
Alors, ça te permet
ou
déjà
avec un De Bruyne qui joue souvent plus en pointe que Haaland.
Tout l'enjeu, c'est toujours d'avoir c'est d'avoir une supériorité numérique au milieu de terrain. Donc quoi qu'il arrive, il voudra toujours avoir un joueur en plus au milieu de terrain jusqu'à jouer parfois avec, qu'on l'a vu avec le Barça, avec 8-9 milieux de terrain. Pour lui, il n'y a pas de problème.
Oui, Bernardo Silva
tout le temps là. Tout l'enjeu est de surpeupler le milieu de terrain toujours pour lui. Et ce qui est marrant dans cette affaire de généalogie de John Stones, il y a eu un article à publier notre ami Diego Torres, qui est aussi dans la revue de la dernière revue, qui raconte un peu la généalogie de ce neuf et qui va demander notamment à Domenech Torrent, qui était son adjoint historique.
Ah oui, j'ai cru que Domenech, on va demander un truc tactique à Domenech,
Et qui raconte en fait, je sais pas si tu l'as vu, Johan et Julien, et en fait, Torrent, il raconte que parce qu'il y a beaucoup de discussions, savoir si en fait il recycle Miguel Angel Nadal comme faisait Cruyff en faisant changer de ligne, etc. Et en fait, Torrent répond en disant qu'en fait, il avait vu ça en 2010 contre Vålerenga, qui est un club suédois, dans un match amical.
Norvégien.
C'est le club qui est suédois, et parce qu'il y a, c'est l'attaquant qui est norvégien, mais le club est suédois.
Non, c'est la Norvège. Vålerenga, c'est norvégien.
Ouais, Vålerenga. Voilà, donc c'est norvégien. C'est un club norvégien, et l'entraîneur était Martin Andersen. Et il voit faire ça, Martin Andersen, avec son central, Stefan Strandberg. Qui fait ça, c'est-à-dire qui déplace, et pendant plusieurs jours, Torrent raconte que ça a obsédé en fait Guardiola d'avoir vu ça.
Il faisait quoi avec le central?
Il le
faisait monter d'un cran.
Il le faisait monter d'un cran jusqu'à le faire monter jusqu'au milieu des intérieurs, parce que le faire monter, ça, il l'avait déjà fait. C'est quelque chose qu'il faisait avec Piqué, ce qu'il appelle la conduction. C'est quelque chose qu'il faisait. Ce qu'il faisait pas, en revanche, c'est le faire participer dans le dernier tiers du terrain. Et ça, Martin Andersen, non, tu vois, c'est-à-dire le type est complètement.
Et
du coup, il se dit. Lui, il réactive Miguel Angel Nadal en se disant, c'est vrai que Cruyff le faisait dans une certaine mesure, et donc moi je vais le refaire, et ça l'a obsédé, et ça date.
Il a pas inventé, hein. Ça avait été fait avant.
Ce que vous décrivez là, c'est un dézonage avec un mec qui quitte sa zone pour aller dans une zone où il n'est pas attendu pour surprendre l'adversaire. Et j'aimerais, parce que Johan est très au fait de ça, il est très intéressé par ça, et il a deux coachs qu'il aime beaucoup et qu'il a beaucoup regardé. De Zerbi et Thiago Motta, cette année, Thiago Motta a fait des trucs assez fous avec Bologne, où les latéraux, parfois par exemple le latéral gauche, pouvaient se retrouver mais de l'autre côté du terrain. Alors ça, il y avait un risque, parce que là où il aurait dû être, si le ballon était perdu, tu peux te dire s'il l'envoie là-bas, il n'y a plus personne, mais ça crée une confusion chez l'adversaire qui était assez stupéfiante, non?
Ouais, ouais. À Bologne, en fait, le rôle des latéraux était un peu spécial parce que Cambiasso, qui est propriété de la Juve et d'ailleurs, qui est normalement le latéral gauche, en fin de saison a été plusieurs fois milieu relayeur dans un milieu formé avec ballon et pas sans ballon, et qui posait beaucoup de problèmes, de notamment face à les équipes qui jouent en 1 contre 1, parce que lui, il était tellement dans une phase où il crée de l'incertitude chez l'adversaire, que finalement, quand l'adversaire était obligé de le serrer, etc., il crée beaucoup d'espace sur toute la partie gauche du terrain. Autre chose, Posch, qui est autrichien, je crois, de mémoire, qui vient d'Offenheim, qui est le latéral droit, qui d'ailleurs est plutôt un défenseur central qu'un latéral droit, pour le coup. Et ben lui, il crée beaucoup de problèmes en venant dans les half space et en se rajoutant un petit peu au milieu de terrain. Il était plus un latéral qui rentre intérieur, un peu comme se faisait Cancelo à l'époque à City. Donc Mota, en fait, pour répondre à la question, moi je trouve que c'est difficile de réinventer quelque chose aujourd'hui. Comme disait Julien, en fait, il y a des cycles, il y a des modes, il y a des choses qu'on va repêcher dans le passé.
Et là, la mode, elle est un petit peu à ce que tu retrouves la volonté de mettre de la confusion chez l'autre en demandant à des joueurs d'aller dans des zones où ils ne devraient pas être, quoi.
Voilà, en fait, plus que... je pense que plus que d'inventer des choses, ce qui peut évoluer beaucoup, c'est l'interprétation des différents postes, selon ce que tu veux mettre en place, selon ton modèle de jeu que tu veux imposer à l'adversaire. Je pense que c'est plus ça, parce que un latéral n'aura pas la même fonction chez un Guardiola, chez un De Zerbi, chez un, je sais pas moi, un Pioli, chez un... Donc ça, l'interprétation du rôle, on peut encore voir des choses différentes, mais sur les replacements de postes comme avec Stones, on a tellement vu de 10 passer en défense centrale, on a vu des 10 devenir des numéros 9, des ailiers devenir des numéros 9, des 10 devenir des ailiers, des 10 devenir des 6,
des 10 devenir des ailiers
aussi.
On pense à Breitner, c'était un joueur qui démarrait latéral, qui terminait les actions.
Qui ça enfin, donc Paul Breitner, je pense qu'en termes de poste, en fait, on a
pas le consultant.
En termes de joueurs, on a tout vu en fait sur des repositionnements. Par contre, l'interprétation du poste, elle peut être très différente. Même chose, un faux numéro 9, il y a plein de sortes de faux numéro 9. Comment tu fais jouer ton numéro 9? Quelle relation il entretient avec les autres joueurs d'attaque? En fait, faux numéro 9, ça veut tout et rien dire. Ça dépend ce que tu lui demandes. Et il y a plein d'interprétations possibles. Donc, je pense que c'est plus sur la disposition des joueurs ou l'utilisation des espaces même que sur
jouer sans des changements dans les revenus de ça.
Le plus fascinant, juste pour revenir sur City et Guardiola, c'est qu'il a tenté plein de choses cette saison, Guardiola. On a même vu Bernardo Silva arrière-gauche à un moment. Il n'était pas vraiment arrière-gauche, mais quand City perdait le ballon, il avait un peu ce rôle. Guardiola lui demandait de venir sur ce côté gauche-là. On l'a vu contre Arsenal en première période, par exemple, ça s'est très mal passé. Donc il a tenté plein de choses. Je pense que le positionnement de Stones, et là, Daniel, c'est pas simplement un dépassement de fonction contre le Real. Il a joué milieu de terrain, tout simplement.
Absolument,
il n'allait plus du tout en défense centrale.
Bien sûr.
Ça permet à Guardiola, et on l'avait expliqué la dernière fois, on va pas répéter non plus ce qu'on avait fait la dernière fois sur le passage sur Guardiola,
non,
mais
j'aimerais
cette recherche du
quelques
contrôle
pour parler de l'Inter quand même.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et juste pour dans cette recherche du contrôle absolu que Guardiola a toujours voulu finalement. Je pense que cette configuration là, ce qu'on verra samedi, il y a aucun doute là-dessus, qui finalement a 5 défenseurs et 5 attaquants, on va dire entre guillemets, Gundogan, De Bruyne, les deux ailiers et Haaland, et après les 5 de derrière, lui offre cet équilibre parfait finalement, et c'est pour ça qu'il l'a longtemps cherché, et c'est pour ça que je pense que cette équipe là de City est la meilleure qu'il a eue depuis son arrivée à l'été 2016.
Pause, en fait, je trouve que juste pour conclure, ce qui différencie Guardiola de beaucoup d'entraîneurs, c'est la capacité à oser et à répéter la prise de risque. Ce que disait Julien, c'est que parfois c'est juste ponctuel, parfois c'est quelque chose qu'il installe dans le temps si ça marche. Mais en fait, il y a tellement de réflexion, de travail cérébral par rapport à d'autres entraîneurs que parfois ça peut sembler trop. Mais moi, je préfère un entraîneur qui réfléchit trop qu'un entraîneur qui réfléchit pas assez.
Dans un instant, on continue le débat et comme promis, on va parler de l'entraîneur de la Juve, Allegri, toujours là.
Ça doit malgré de l'Inter, faut quand même savoir ce qu'ils vont opposer à City, même si on s'en doute un peu.
Malgré les ondes que lui envoie Yann Crochet depuis des années. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Thibault Leplat, Daniel Riolo, Johan Crochet qui sont là. Johan, un mot de l'Inter et ensuite on parle d'Allegri. Qu'est-ce qu'il y a d'important à dire à 48 heures du match concernant l'Inter?
Qu'il y a des doutes de formation parce que Mkhitaryan est revenu hier à l'entraînement avec le groupe, donc il sera disponible même si ça fait un petit moment qu'il a pas joué. Donc il y a le doute en gros, c'est est-ce que tu commences avec Mkhitaryan ou avec Brozovic, ce qui veut dire que soit Çalhanoğlu joue relayeur gauche, soit il joue devant la défense. Et puis l'autre c'est Dzeko Lautaro, même si on a le sentiment que il va continuer à utiliser Dzeko en titulaire et Lukaku qui rentrera ensuite en seconde mi-temps comme impact player pour faire des dégâts dans la défense de City. Ce qui va être intéressant de voir surtout, c'est quelle va être l'approche du match. Alors on a une petite idée, un bloc plutôt bas, exploiter les transitions avec Barella qui aura un rôle très important, mais ça peut être aussi
verticalisation ultra rapide parce que
voilà,
il va
ça
y
peut
avoir
être du jeu long aussi sur le Dzeko et Lukaku avec les projections d'un Çalhanoğlu, d'un Mkhitaryan, d'un Barella, sans oublier un Di Marco, le jeu long de Bastoni aussi qui va être très intéressant en phase de transition. Donc évidemment qu'ils vont chercher à jouer très très rapide vers l'avant parce que c'est comme ça qu'ils peuvent profiter des espaces de City et profiter d'une désorganisation que peut créer les changements de poste et le football liquide de notre ami Guardiola. Après sur l'approche générale, je lisais ce matin Sacchi dans l'équipe, pas dans l'équipe en l'occurrence, mais dans la Gazzetta dello Sport, qui disait ouais, il faut que l'Inter presse haut. Bon, je suis pas persuadé.
Ça me paraît pas possible ça en fait. Hein.
Je suis pas persuadé. En tout cas, surtout en début de match,
que
ça soit
vraiment la nature
la plus,
de l'équipe quoi, de faire ça.
La plus durable pour que le match dure dans le temps en fait.
Bon, Spalletti, pardon. Je suis fatigué.
Oulala, attention là.
Je suis fatigué. C'est pas la même chose.
Non.
Allegri, qu'est-ce que tu as envie de nous en dire ce soir? Est-ce que c'est uniquement des raisons économiques qui font que la Juve le garde?
Non, c'est pas que des raisons économiques, c'est parce que ils estiment, les dirigeants estiment que à la tête du navire qui tangue, avoir une référence Juventine, ah. Ouais, je sais même pas si on peut dire qu'il est Juventine ou Allegri, bon bref,
ouais.
Avoir une référence en tout cas d'un mec qui connaît l'environnement Juve, ça sert quand le bateau tangue. J'ai quelques doutes parce que j'avais fait un avis tranché il y a quelques temps en disant que la Juve devait tout changer, qu'elle devait s'inscrire dans la modernité à tous les niveaux, au niveau des dirigeants, au niveau de la stratégie sportive, au niveau du terrain. Et si on continue avec Allegri, alors attention, malgré ce qu'a dit Scannavino, moi je laisse une porte ouverte quand même à un changement cet été. Je suis pas persuadé qu'on soit vraiment dans l'absolue certitude qu'il restera. Mais ça a des conséquences. Hein. C'est la Repubblica ce matin qui expliquait ça. Il y a des fan clubs officiels de la Juve, des tifosi très importants, de soutien très important, qui expliquent qu'ils prendront pas l'abonnement l'année prochaine au Juventus Stadium, ah parce oui. qu'ils ne veulent pas cautionner le maintien d'Allegri.
Il y a vraiment des supporters. Quoi.
Mais déjà dans la saison, moi, quand je vois des tribunes vides. Quand je vois des tribunes vides dans un stade de 40 000 places à Turin, il y a de quoi se poser des questions. Quand tu vois la colère des supporters de la Juve et qui estiment que leur club ne va pas dans la bonne direction, ils ont plutôt raison d'ailleurs là-dessus à tous les niveaux. Bah évidemment, au bout d'un moment, tu te lasses en fait. Tu soutiens jusqu'au moment où tu te dis que en fait, t'es pris pour un imbécile.
Et précisons, Johan, que c'est pas tellement dans la nature des supporters de la Juve et ce genre d'action.
Ah non, non, bien
et
sûr.
Encore moins de rouspéter sur la qualité du jeu. C'est pas du tout culturel à la Juve. Eux, non, mais ce qui leur importe, c'est de gagner. Eux, ils ont jamais, tous les débats sur le jeu, sur machin et tout, ils laissent ça aux autres, à Milan, à l'Inter, à qui tu veux, machin. Eux, c'est vous nous emmerdez, nous on veut gagner. S'ils font ça, c'est qu'ils ont bien compris que même ça, avec Allegri, ils l'auront plus.
Ouais, c'est ça. Et encore, le discours évolue un peu, hein, Daniel, hein, parce que quand Allegri part la première fois, la Juve gagne, contrairement à aujourd'hui, puisque Allegri est champion en partant. C'est juste que les supporters ont aussi une autre attente, c'est qu'ils veulent voir autre chose. Ils veulent voir les supporters. Maintenant, ils sont pas bêtes, ils sont abonnés à plein de chaînes, ils sont partout
aussi,
sur Internet, etc. Ils voient comment le football évolue.
C'est vrai qu'eux, ils étaient.
Il voit comment le football évolue et d'ailleurs c'est pour ça que Sarri avait été pris. Il voit ailleurs comment on joue au football en fait, ce qui permet d'arriver loin en Ligue des Champions, etc. Donc là le problème c'est que ils ont une équipe qui ne défend pas bien, ils ont une équipe qui n'attaque pas bien, ils ont une équipe qui ne sait pas quoi faire du ballon, ils ont une équipe qui ne gagne pas. Donc en fait comme Allegri lui demande à ce qu'on juge ses performances, enfin son travail sur les résultats, bah aujourd'hui ça se retourne contre lui parce que des résultats il y en a plus.
Merci Johan, on aura l'occasion de revenir sur tout ça évidemment dans les semaines qui viennent.
Ça me sent, on sera là pour la finale. Hein.
Exactement. Évidemment.
Et demain soir, l'after sera là dès la fin du match de rugby.
Ciao, ciao.
Salut
ciao.
Thibaut, salut Johan, salut Daniel.
Salut,
et
Simon.
À demain soir dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.